Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
Salut à tous, c'est parti pour deux heures de live en direct du studio RMC Place de la Concorde à Paris. On laissera la main ensuite à Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time, un intégral foot aujourd'hui avec notre coach à nous, Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
La Ligue 1, c'est le fil rouge de notre émission. Lorient-Montpellier, c'est dans quelques instants maintenant. Et puis on reviendra sur les matchs de 15h. C'est la promesse de l'intégral foot avec nos reporters sur place. Et vous, les supporters, on vous attend au 32-16 à la sortie du stade ou même chez vous. Appelez-nous pour venir débriefer tout ça avec nous. Sans oublier aussi la nouvelle défaite de Lyon, hein, lanterne rouge et qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison. Et si on est ici à la Concorde, c'est parce que la Coupe du Monde de rugby continue. Le premier rendez-vous de la journée, c'est à 17h45 avec Australie-Portugal. Les Australiens au bord de l'élimination après la victoire des Fidji hier. Mais pour les Wallabies, il s'agit surtout de sauver l'honneur. Et puis l'affiche à 21h entre l'Afrique du Sud, probable futur adversaire des Bleus en quart de finale, et les Tonga, sans oublier les dernières infos de l'équipe de France et notamment les nouvelles d'Antoine Dupont qui a retrouvé l'entraînement avec les Bleus, avec notre Dream Team de consultants. Et aujourd'hui, c'est Pierre Rabadon qui s'y colle. Salut Pierre.
Salut Flora, bonjour à tous.
Allez,
salut,
c'est Pierre. Parti tout de suite pour l'Intégral Foot. Et avant de partir sur le Lorient-Montpellier qui va débuter dans quelques instants, il y avait trois matchs à 15h et ça y est, ça vient de se terminer. La large victoire de Toulouse face à Metz, Romain Amalric.
Ouais, Toulouse qui renoue avec le succès à domicile en Ligue 1, ça n'était pas arrivé depuis le 12 février dernier. Victoire logique et importante, 3-0 pour les Toulousains face au FC Metz, but de Niklas Schmidt et Tish Dalinkra en première période et confirmation à la 82e par Franck Magri. 3-0 pour le TFC qui remonte un petit peu au classement, qui se sort de la zone rouge et qui va même entrer dans la première moitié du classement. Et Metz en revanche qui enregistre une nouvelle défaite cette saison.
Merci Romain, on te laisse aller chercher quelques réactions. Tu nous ramènes tout ça au micro d'RMC évidemment tout à l'heure. On va débriefer ce Toulouse-Metz. Supporters, on vous attend au 32-16. On débriefera aussi la belle victoire de Lille face au Havre 2-0. Et puis le nul 0-0 entre Nice et Brest. Appelez-nous au 32-16 pour venir participer avec nous dans l'intégral foot. On va aller toujours tout de suite du côté de Lorient. Le moustoir, on va retrouver Pierre-Yves Leroux pour ce match face à Montpellier. Ça a débuté même. Salut Pierre-Yves.
Tu es parfaitement à l'heure.
C'est le timing.
Exactement. À l'instant, le coup d'envoi. Bonjour Flora, bonjour coach. C'est parti entre Lorientais et Montpellierin sur une très belle pelouse. C'est pas la plage de la Mausson. Hein. On se souvient que Michel Darzacarian s'était plaint de l'état de la pelouse du côté de Montpellier. Là, c'est parfait pour jouer au foot. Attention à un premier ballon, là, Mvogo, qui essaye de relancer proprement. Mais il y a le pressing Montpellierin. Finalement, c'est la porte qui va dégager entre ces deux équipes donc qui sont dans une situation quand même délicate. Une seule victoire depuis le début du championnat, des victoires probantes d'ailleurs face à Lyon pour cette équipe montpelliéraine et face à Lille pour les Lorientais, à chaque fois 4-1, mais pour le reste ça patine quand même sec. Et résultat, et bien celui qui n'arrivera pas à prendre des points aujourd'hui risque d'être dans une situation assez délicate au niveau du classement.
Ouais, écoute, c'est chaud pour les deux équipes hein,
ouais, bon. Je pensais que Montpellier, bon maintenant c'est pas fini hein, on n'est même pas au pire du championnat, mais je pensais que Montpellier allait être le trouble fait, un petit peu comme Brest là, de cette saison. Et pour le moment, malheureusement, ça ne se passe pas comme on aurait pu penser.
Ouais, on va voir si aujourd'hui ça va réagir face à Lorient. Pierre-Yves, c'est évidemment le fil rouge de la journée. Ton micro est ouvert, hein, si jamais il se passe quoi que ce soit, tu viens nous dire tout ça. Nous, on va revenir sur les matchs de 15h. T'en parlais, coach, du trouble fait brestois dans ce début de saison. Il jouait à Nice, c'était cet après-midi. On va retrouver Maxime Tillette qui est toujours avec nous. Salut Max.
Salut Flora, salut coach, bonjour à tous.
C'était le choc de cette journée hein, finalement entre Nice et Brest et un peu déçu finalement hein, du résultat.
Oui, en effet, là, comme on l'a dit tout à l'heure, la montagne a accouché d'une souris. Bon, c'est pas une mauvaise opération ni pour Nice ni pour Brest, mais on espérait un peu plus de spectacle sur le terrain. Bon, finalement 0-0, ça contente peut-être un petit peu tout le monde.
Ouais, tu penses coach, ça satisfait tout le monde ce 0-0? Il y avait la possibilité quand même pour Brest hein,
de rester leader. Hein. Les Brestois, oui, mais Nice qui vient de gagner à Monaco, même si ce match était un petit peu particulier avec deux pénaltys ratés par les Monégasques, ça fait rien. Les Niçois pensaient évidemment battre Brest et prendre cette première place, ce qui fait toujours plaisir. Donc la contre-performance, si on peut parler d'une contre-performance, c'est pas pour Brest, c'est pour Nice.
Ouais, ça reste une bonne perf pour Brest aujourd'hui, bah oui. Coach. Ça confirme aussi cet excellent début de saison. C'était le retour d'Eric Roy aujourd'hui aussi à Nice. Il est en train de prouver encore plus depuis le début de saison tout le boulot qu'il fait aussi chez les Brestois.
Absolument.
Max, on a envie de parler avec toi aussi un peu du contexte niçois. C'était difficile cette semaine. Rappelle-nous un petit peu tout ça et puis dis-nous comment se sont sentis justement les joueurs du gym sur le terrain.
Oui, bah déjà là, à la fin du match, les supporters niçois ont chanté pour Beka, allez, allez, après avoir déjà applaudi leurs joueurs qui regagnaient les vestiaires. On note aussi un étendard qui est resté, un petit étendard là que les supporters ont quitté les tribunes, mais lui est toujours là. Courage Alexis, mais rien de très exubérant pour ne pas trop marquer le coup non plus, pour pas en rajouter. On parle ici évidemment de la tentative de suicide d'Alexis Beka Beka, joueur membre de cet effectif niçois. Ça s'est passé vendredi, il y a à peine 48 heures, et évidemment c'était dans les têtes de tous les supporters niçois et membres de la délégation niçoise.
Ouais, ça coach, quand on prépare un match, ta conf de presse avait été décalée, évidemment c'est un contexte qui est quand même très très lourd hein, pour les Niçois,
oui,
aussi aujourd'hui.
Très très lourd et très très rare. J'ai pas souvenir d'un joueur qui a failli se suicider après des discussions avec un psychologue. Donc ça c'est quand même un truc, on est vraiment dans une époque un petit peu particulière.
Ouais, et à noter, si je peux ajouter, il y a une table ronde qui a été organisée hier avant l'entraînement par Florent Ghisolfi avec les joueurs, la psychologue du club, le directeur sportif niçois, qui a vraiment souhaité que les coéquipiers qui partagent le vestiaire avec Alexis bien puissent verbaliser, dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Évidemment dans cette situation on se pose pas mal de questions, et le but était aussi de se souder tous ensemble, d'aller chercher un bon résultat contre Brest. Donc ça nous a donné ce 0-0, mais voilà, il y avait une vraie volonté de parler de tout cela et d'apporter son soutien à Alexis. Allô.
On va rester un petit peu du côté de Lorient.
Oui, Flora. Toujours 0-0. 5 minutes de jeu. J'ai failli vous interrompre parce que il y avait un très bon coup franc pour les Montpellierens juste à l'angle de cette surface de réparation lorientaise, frappée par Téji Savanier, finalement repoussée par le mur. Mais pour le moment, ce sont les Montpellierens qui poussent dans ces premières minutes. Ils sont à nouveau à l'attaque avec le côté droit et particulièrement Moussa Altamari qui va peut-être pouvoir centrer. Ça sera un corner à venir pour les Montpellierens. Toujours 0-0. 5 minutes de jeu. On rappelle qu'il y a quand même pas mal d'absents aussi. Des deux côtés, côté Montpellierin, Isiaga Silla qui s'est blessé au mollet jeudi. Il y a également Fayad, Arnaud Nordin, buteur du côté de Montpellier, qui est absent.
Il vaut mieux pas être arrière gauche en ce moment à Montpellier.
Exactement. Résultat, c'est Maxime Estève qui est dans le couloir, qui joue plutôt central, mais qui est latéral gauche de formation. Donc on va surveiller quand même sa prestation. Mais effectivement, il n'est pas le seul à être blessé, puisque Théo Saint-Luce, qui est l'habituel remplaçant dans ce couloir, est également absent. Les Montpellierens qui font plutôt un bon début de match pour le moment. 6ème minute, 0-0 au Moustoir.
Je sais pas si t'aimes bien la musique.
J'adore.
Mais
j'adore.
on est place de la Concorde au studio RMC si vous voulez venir nous rejoindre. D'ailleurs, vous voyez, il y a une belle ambiance dans ce village rugby à Paris. Ça fait sourire Pierre Rabadon.
C'est la fête.
Mais, c'est ça, c'est. Oui, mais c'est pour ça qu'on est la radio officielle de cette Coupe du Monde. C'est parce qu'on aime aussi ce folklore, oui. Évidemment. On est toujours avec Maxime Tillette. On revient sur ce Nice-Brest, le 0-0. C'était à 15h le coup d'envoi. On parlait du contexte compliqué psychologiquement autour de ce match-là pour les Niçois. Max, on va rester sur le sportif aussi avec le calendrier à venir. Il y a une confrontation face à l'OM aussi dans deux semaines. Et c'est là aussi qu'il va falloir prendre des points.
Turam prenait un jaune aujourd'hui, ils étaient suspendus pour ce derby, finalement ils n'en ont pas pris, donc ils ont été sages dans cette fin de match. Oui, il y a ce derby face à Marseille qui arrive, ensuite il faudra enchaîner Clermont, Rennes, on sait que c'est pas évident, le niveau est assez serré quand même dans ce championnat. On a vu Clermont vraiment embêter le Paris Saint-Germain hier, donc les points, il faudra aller les chercher un petit peu partout avec ce niveau très homogène dans ce championnat de France en ce début de saison.
Merci beaucoup Maxime, je te laisse aller en zone mix, aller récupérer quelques réactions. Tu nous diras aussi justement comment se sentent les joueurs niçois à ton micro. Ça nous donnera une petite idée de l'ambiance qui règne en ce moment du côté de Nice. En attendant, il y a Laurent, supporter niçois, qui est avec nous au 32-16. Salut Laurent.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On disait avec coach que finalement ce match nul, c'était plutôt une mauvaise opération pour Nice. Comment tu vois les choses toi?
Oui, en fait, Nice, c'est un peu... Moi, ça fait 40 ans que je suis supporter de Nice et c'est souvent la même histoire. Quand on doit vraiment confirmer des belles choses, on a du mal. Donc là, ça nous aurait fait 4 victoires de suite. Bon, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas parmi les 3 premiers du... On n'est pas parmi les favoris du championnat. Hein. C'est, on est l'OGC Nice. Mais c'est vrai qu'on a toujours du mal au moment où on attend son équipe qui sont supposées un peu plus faibles, bien que Brest soit leader. On a du mal toujours à franchir la marche. Moi, ce que je dirais, c'est que contre les blocs bas, parce que Éric Roy, évidemment, nous a attendus, notamment en première mi-temps, où on avait vraiment pas loin de 70% de possession et une nette domination, il nous manque. En fait, on joue avec 3 milieux récupérateurs, relayeurs. Parce que Thuram, Ndaye Chinier et Sanson, on n'a pas de réel créateur dans ce milieu de terrain, ce qui fait que contre les blocs bas, on a toujours un problème pour faire la passe juste au bon moment. Alors évidemment, quand on affronte des équipes comme le PSG, des équipes qui jouent, qui ouvrent le jeu, on est bien, parce qu'on a l'équipe vraiment très bien pour ça, mais contre les blocs bas, on a du mal. On l'a vu contre Lyon et contre Strasbourg. Si Attal nous fait pas, si Attal nous fait pas un exploit à la 45e, on serait peut-être toujours en train de chercher l'ouverture. Donc c'est un peu le problème. Moi, j'ai une solution. Excusez-moi d'être un peu long. J'espère qu'on la tentera parce qu'on a Diop et son meilleur poste, c'est milieu axial. On le met en ce moment à gauche. Bon, là, il était blessé, donc le problème ne se posait pas. Mais Farioli.
Qui c'est le milieu axial en ce moment?
Ben, le milieu axial, c'est plutôt Sanson. Thuram est à gauche.
Mais Sanson, c'est le pendant de Thuram à droite.
Si tu veux,
tu nous trouves une place qui, pour le moment, dans l'organisation du coach, elle n'existe pas.
Elle n'existe pas, justement. C'est ça le problème. Mais moi, je persiste qu'on devrait, contre les blocs bas, essayer de jouer au moins avec 4. Parce que si tu mets Diop milieu axial, tu ouvres la place aussi pour Boga à gauche. Et en fait, tu joues avec 4 joueurs offensifs, finalement. Là, on joue avec 3 joueurs offensifs. Et les milieux de terrain, ils peuvent être un peu hybrides. Mais je trouve que... Alors, tu as raison, Roland. C'est vrai que c'est... Il ne le fera pas, Farioli, mais moi, je pense qu'on a, ça fait depuis 2017, première version Favre, qu'on n'a plus de réel créateur au milieu de terrain à Nice, et ça nous manque depuis des années, donc là, on l'a encore plus.
Disons que ce que tu pourrais faire, si j'ai pas mis de faire le professeur, mais c'est que tu peux avoir ton idée sur le 4-3-3, qui est ta meilleure organisation et ton organisation préférée. Mais après, les 30 dernières minutes d'un match où tu n'as pas réussi à faire la différence, terminer ce match en 4-2-3-1 et justement essayer de mettre un gars en retrait de Mofi, ben c'est sûr que ça ne peut pas être une mauvaise idée.
Alors on a des solutions, voilà. En tout cas pour le coach niçois. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous au 32-16 pour ton analyse. On sent que tu es un vrai supporter niçois. Ça fait plaisir, n'hésite pas à revenir dans l'intégral foot, ce sera avec grand plaisir. Un œil du côté du Moustoir, Pierre-Yves Leroux, entre Lorient et Montpellier.
On te voit danser, Flora, hein. Dès que la musique reprend, je vois très bien.
Mais
bien
tu sûr. Vois les danses traditionnelles là.
Bien voilà, sûr, tout suis. À fait. 0-0 ici au Moustoir. 11 minutes de jeu, et bien quasiment pour la première fois à l'instant, les Merlus rentrent dans ce terrain montpelliérain. On est à 71-29 en possession, et bien la première frappe, elle est pour le Goff, elle va passer à côté des buts de Benjamin Lecomte, le portier de cette équipe montpelliéraine qui retrouve d'ailleurs cette équipe et ce club qu'il a vu être formé ici du côté de Lorient. Et cette frappe, elle est trop croisée par Vincent Le Goff. On en reste donc à 0-0, mais les plus belles occasions pour l'instant sont à mettre du côté des hommes de Michel Derzakarian, sans avoir pu trouver la solution.
Tu vois, on vient de discuter avec le supporter de l'équipe et de l'organisation de Nice. Ben, tu as Montpellier qui, malgré qu'il soit à l'extérieur, joue avec 4 joueurs offensifs en 4-2-3-1. C'est quand même assez audacieux.
Exactement. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien d'ailleurs au niveau de cette organisation. Et les Lorientais qui essayent de ressortir proprement, comme souvent, j'ai bien peur qu'à un moment il se fasse piéger, parce que à deux reprises déjà, Mvogo a eu du mal à trouver ses défenseurs pour ressortir. Donc on va surveiller attentivement ce pressing aussi montpelliérain avec ses joueurs offensifs. 12 minutes de jeu, 0-0 au Moustoir, sous le soleil toujours.
Bon, coach Pierre, est-ce que vous êtes fan de golf, messieurs?
Moi j'aime beaucoup, j'ai plus trop le temps d'y jouer ces derniers temps, mais on en parlait hier avec Christophe et la Ryder Cup.
Eh ben oui, mais c'est le dénouement, c'est pour ça qu'on en parle, Pierre. C'est la 44e édition de la Ryder Cup, c'est terminé. Eh oui, c'est terminé avec une victoire. Eh bien pour nous on est contents, une victoire de l'Europe aujourd'hui, là, la 15e victoire européenne dans cette Ryder Cup.
C'est une habitude.
Oui, habitude, c'est vrai, mais ça alternait ces dernières années. Et on a Simon Dutin qui est là avec nous pour nous en parler. Salut Simon.
Salut Flora, salut Pierre, salut tout le monde.
Salut Simon.
Et comme on le disait, finalement, j'ai envie de dire comme toujours ces dernières années, le pays Hanin. L'équipe qui reçoit joue, elle gagne finalement.
Effectivement, Flora, comme tu dis, l'équipe à domicile a ces dernières années un gros avantage, en tout cas au niveau des statistiques. Ça s'est confirmé encore une fois. Alors on précise qu'il reste encore quelques joueurs sur le parcours, mais que mathématiquement l'Europe a gagné, c'est certain. On n'a pas encore le score final, mais effectivement l'Europe est assurée donc de reconquérir cette Ryder Cup, parce qu'on avait pris une belle fessée quand même il y a deux ans aux États-Unis. 8 victoires sur 9 à domicile, tu vois, les 9 dernières Ryder Cup, 8 fois, tu le disais, l'équipe à domicile l'a emporté. La seule fois où elle ne l'a pas emporté, c'est le fameux miracle de Medina en 2012, tu sais, quand les Européens avaient fait une remontée fantastique le dernier jour. On a quand même réussi à s'inquiéter un petit peu cet après-midi, parce que les Américains qui sont passés complètement à côté des parties de double des vendredis et samedi, ils ont haussé le ton visiblement. Hier, tu sais, ça s'est bien terminé. Ils ont terminé par une victoire de Patrick Cantlay. Le momentum avait, semble-t-il, un petit peu changé, et ils sont arrivés galvanisés. Ils ont démarré avec Scottie Scheffler, tu sais, qui était en larmes, le numéro 1 mondial hier, qui s'est fait rétamer et qui a joué face à Yon Ram, une partie de titan qui s'est conclue par un match nul et qui a donné le ton d'une journée vraiment exceptionnelle. On avait un petit peu peur du blowout, comme disent les Anglais, tu sais, d'une raclée, et finalement on a eu une magnifique édition de Ryder Cup remportée donc par l'Europe.
Ouais, justement, pour raconter un petit peu peut-être le scénario, est-ce que ce sont les Européens qui ont vraiment été trop forts dans cette Ryder Cup, ou alors est-ce que les Américains se sont peut-être vus un petit peu trop beaux, nous ont pas pris un petit peu de haut, nous les Européens?
Comme souvent, tu sais, la presse va leur tomber dessus, évidemment, à partir de demain. Il y a souvent, on pensait que c'était un cliché, que ça appartenait un petit peu au passé avec cette nouvelle génération de joueurs américains. Souvent un petit peu de suffisance, parce qu'individuellement, il n'y a pas photo. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, 6 joueurs américains dans le top 10 mondial contre 4 seulement aux Européens. Certains ne sont pas venus reconnaître le parcours. Certains sont arrivés juste en début de semaine, là où les Européens, eux, étaient venus disputer, notamment l'Open d'Italie sur ce parcours du Marco Simone. Rien à voir avec le joueur de foot, qui pourtant lui est un très bon joueur de golf amateur. Écoute, les Américains, ils sont passés à côté, comme très souvent, des matchs par équipe. Voilà, ils sont très forts individuellement, mais l'Europe a confirmé que le team spirit, c'est vraiment une culture du vieux continent. Tu sais, il y a deux types de matchs par équipe. Soit on tape on joue la même balle et on joue un coup chacun en double, et ça, soit on joue chacun sa balle et puis la meilleure donne le point à son équipe. Et dans les matchs en foursome, c'est-à-dire lorsque les joueurs se succèdent, un qui tape le départ, un qui tape le deuxième coup, les Européens mènent 20 à 4 sur les trois dernières éditions de Ryder Cup. C'est vraiment une culture maison, et c'est vraiment un point sur lequel les Américains doivent progresser à l'avenir.
Merci beaucoup Simon Lutin pour cette victoire européenne dans la 15e, donc dans cette Ryder Cup. Merci Simon. Un détour par la Ligue 1, il y a une énorme occasion pour Lorient, Pierre-Yves Leroux, face à Montpellier.
Des Lorientais qui étaient dominés sur les 10 premières minutes, 0-0 toujours après 16 minutes, mais depuis 5 minutes ils ont réussi à sortir un petit peu de leur carapace. Il y a ce corner frappé par Le Goff, un corner rentrant de la droite vers la gauche en regardant les buts de Benjamin Lecomte. Il y a le géant Isaac Touré, le défenseur central, qui monte toujours, cet attaquant de formation, on le rappelle, et il est bien dans le timing, il met sa tête, et heureusement pour les Montpellierains, il y a la superbe parade, la main ferme de Benjamin Lecomte qui repousse ce ballon. Mais l'occasion la plus franche, eh bien, elle est donc pour les Lorientais après 17 minutes, même si au niveau de la possession, eh bien, pour le moment, ce sont les Montpellierains qui l'ont et qui dominent, mais qui n'ont pas réussi finalement à mettre trop en danger Mvogo, le portier Lorientais, sous l'œil très attentif de Michel Derzakarian et Régis Lebris, qui vont suivre d'ailleurs cette nouvelle offensive des Montpellierains. Isaac Touré, cette fois en position défensive, et qui va réussir à dégager ce ballon sous la pression, ça donnant une touche pour les Montpellierains qui sont revenus dans le camp des Morbihanais. 0-0
toujours. Ça commence à s'animer dans ce match. 17h22, l'intégrale foot revient tout de suite avec Pierre Abadan et coach Courbis, supporter lyonnais. On vous attend au 32-16 pour revenir sur cette nouvelle défaite. Vous entendrez les réactions aussi, notamment du coach Fabio Grosso, d'Anthony Lopez, aussi évidemment très déçu après cette nouvelle défaite. Lyon, lanterne rouge de Ligue 1, on vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, intégrale foot.
Flora Moussi.
De retour dans l'intégrale foot avec coach Courbis et Pierre Rabadan. On suit la 7e journée de Ligue 1. On vous attend au 32-16, un supporter lyonnais. On va en parler dans quelques instants de cette nouvelle défaite. Mais d'abord, on va retrouver Pierre-Yves Leroux avec une nouvelle occasion. Montpellier-Rennes face à Lorient.
Oui, l'occasion la plus franche pour les Montpellierains. Elle vient de cette frappe de TJ Savagnier. Il a pris un ballon perdu par Eli Kroupi qui était revenu en position défensive. TJ Savagnier qui tente sa chance. Mbogo qui réussit à repousser en corner. Le corner qui est frappé immédiatement. Et à nouveau, la tour de contrôle. Elle s'appelle Isaac Touré du côté de la défense lorientaise pour dégager ce ballon, mais les Montpellierains vont vite revenir à l'attaque. On rappelle 0-0, 22e minute au moustoir. Une belle occasion de chaque côté pour l'instant, possession à l'avantage des Montpellierains, et il faut dire qu'ils préfèrent ça, les Lorientais, parce que si on regarde un petit peu les stats, eh bien les deux grosses claques qu'ils ont prises, c'était face au Havre et face à Nantes, là, le dernier match 5-3, eh bien à chaque fois ces équipes avaient laissé la possession aux Lorientais. Donc ils sont un petit peu plus en délicatesse quand ils doivent construire le jeu. C'est dans les transitions qu'ils doivent en revanche être plus efficaces par rapport à la saison dernière notamment. Et à ce niveau-là, c'est pas terrible encore aujourd'hui. Mais pour le moment, il y a bien 0-0 entre les deux équipes.
Ils sont offensifs, hein, ces Montpellierains, coach. Tu notais le système mis en place aujourd'hui par Michel Darzakarian.
Et dans leurs intentions aussi, parce que c'est pas obligé de mettre un système en 4-2-3-1 si c'est pour ne pas attaquer. Là, ils attaquent, ils essaient de construire. Pour le moment, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'occasions. J'en ai noté deux qu'ils ont pu être dangereux grâce à cette organisation et aux intentions qu'ils ont. Mais bon, on assiste quand même à un match. Là, il n'y a pas eu de but, mais le niveau est pas mal du tout.
Ouais, le niveau pas mal du tout. On peut pas en dire autant de Lyon en ce moment, coach. Nouvelle défaite 2-0 sur la pelouse de Reims. C'était un peu plus tôt. Le match était à 13h. Toujours pas de victoire, hein, cette saison en Ligue 1 pour les Lyonnais. Le déclic souhaité avec l'arrivée de Fabio Grosso n'a toujours pas eu lieu. Coach, Lyon est assuré de terminer cette 7e journée de Ligue 1 à la dernière place. Lanterne rouge. Et finalement, quand on voit les performances, y a rien d'étonnant.
Mais non. En plus, aujourd'hui, tu as la Lacazette qui est suspendue, ce qui n'arrange rien. L'arrivée de Grosso, normalement, quand tu as un changement d'entraîneur, ça apporte toujours un plus ou même un petit plus. Là, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes à régler du côté de Lyon. Et c'est pas seulement Cherki, le problème.
Ouais, qui était titulaire
du
aujourd'hui.
Côté de Lyon, donc, qui était titulaire et qui est sorti à la 53e minute sans savoir pourquoi. Oui, il n'a rien fait d'extraordinaire, mais je crois qu'en ce moment, il y en a 15 ou 16 de joueurs qui ne font rien d'extraordinaire. Donc c'est difficile à comprendre. Il faudra lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe avec Cherki? C'est pas le seul problème. Alors peut-être c'est le problème numéro 1. Mais bon, que Cherki
soit... Ça m'étonnerait que Cherki soit le problème numéro 1.
Voilà, que Cherki soit un joueur. Allez, on dit talentueux, mais talentueux avec beaucoup de progrès à faire.
Et jeune aussi.
Ok. Mais bon, je pense que s'acharner sur lui, si c'est le cas, c'est peut-être quand même pas la bonne solution. En tout cas, c'est une solution surprise.
On va écouter justement le coach lyonnais Fabio Grosso juste après la rencontre, qui nous parle de cette situation très compliquée en ce moment à Lyon.
Il y a des choses positives aujourd'hui, même si c'est bizarre de le dire après une défaite. Mais moi, je vois une lumière au fond. Et cette lumière, il faut aller la chercher. Il faut fatiguer pour y arriver. Après, je pense qu'ils vont s'ouvrir des choses différentes. Parce que les petits détails, tout le temps, ils changent les matchs. Et pour le moment, de ce petit détail, nous, on n'est pas en confiance. Ça soit les adversaires, ils étaient en confiance. Et sur la longueur du match, on devient parfois un peu faible.
Ouais, un petit peu faible. Il nuance cette défaite, Fabio Grosso, aujourd'hui. Coach, tu parlais des problèmes lyonnais. C'est quoi le problème lyonnais aujourd'hui? Pourquoi ça prend pas, malgré le départ de Laurent Blanc, l'arrivée de Fabio Grosso? Il y a des joueurs expérimentés. Évidemment qu'il y a de la jeunesse, mais il y a des joueurs qui connaissent très bien ce club, comme Corentin Tolisso, comme Anthony Lopez, Alexandre Lacazette. C'est quoi le problème?
Le problème, donc, s'il n'y en avait qu'un seul de problème et que j'avais la prétention de le connaître, je leur filerais un coup de main, je leur dirais. Mais je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes sur le terrain, il y a des problèmes dans le vestiaire, il y a des problèmes dans le club, il y a des problèmes dans l'arrivée d'un nouveau propriétaire. Il y a beaucoup de problèmes. Alors paraît-il que quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Oui, d'accord. Mais s'il y en a beaucoup de problèmes ou beaucoup trop, c'est difficile de trouver les solutions. Après, donc cet effectif, c'est quand même un effectif ben compliqué, des nouveaux joueurs. Tiens, un joueur qui arrive de tel endroit, qui a été prêté après. Donc le propriétaire, il a plusieurs clubs, à savoir quel est le club qui préfère. Si j'essaie de me mettre à la place d'un Lyonnais, sincèrement, il me faut une boussole, mais pas petite, hein, une énorme boussole, parce que je ne sais plus où je suis.
On va accueillir un homme courageux, ouais, Pierre.
Non, je disais, après, c'est sans doute un changement culturel aussi à Lyon, Olas.
Eh oui, c'est la fin d'une ère aussi. Ouais.
Et le problème, en tout cas, il n'est pas individuel. J'entends ce que disait Roland sur Cherki. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui et pour l'instant, il ne répond pas présent. Mais voilà, il y a Tolisso, il y a Lacazette, il y a d'autres
leaders. Il y a des joueurs expérimentés.
Voilà, et c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas du tout de changement avec l'arrivée d'un nouveau coach. Ça viendra peut-être, hein, il va peut-être trouver la lumière, comme il disait Grosso. Mais en tout cas, c'est difficile de voir Lyon dans cette situation.
La lumière, d'après son image, elle est dans le tunnel, mais si le tunnel il est très long et que la lumière elle est au bout du tunnel,
ça va être long pour les supporters lyonnais.
Bonjour, le courage.
C'est ça, et ben un homme courageux qu'on va accueillir justement, c'est Sam, supporter lyonnais qui est avec nous au 32-16. Salut Sam, merci d'être avec nous.
Bonjour à tous, j'ai mis ma cape de super héros.
C'est vrai. Ouais, on imagine que c'est compliqué pour toi, pour vous les supporters lyonnais en ce moment. Comment t'as vécu cette nouvelle défaite? Est-ce que toi tu arrives à mettre des mots sur les mots lyonnais justement?
Bah, déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, pour le moment, je ne veux plus entendre parler de Coupe d'Europe ou de quoi que ce soit. Il faut déjà que tout le monde soit bien conscient que ça joue bien à l'heure actuelle. Voilà, il ne faut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres, que ça n'arrive qu'au Castanté, que ça n'arrive qu'à Bordeaux. Là, on est sur ce genre de trajectoire. Le mal, il est profond. Le mal, il est psychologique, je pense surtout. Il y a un moment, en fait, quand tu as passé autant de semaines, autant de matchs à jouer avec la peur, parce qu'on l'a vu.
Sans faire de jeu de mots, excuse-moi de te couper, il est psychologique ou il est tout simplement logique, compte tenu de ce qui se passe sur le terrain, c'est exactement ce qui se passe en coulisses depuis 2 ans.
Oui, mais tout à fait. Mais c'est aussi pour ça que les supporters, les premiers, ont demandé beaucoup, beaucoup de changements. On a vu l'interview de Moussa Dembélé qui est sorti dans la semaine. Qui venait illustrer beaucoup des craintes et de l'idée qu'on se faisait de l'extérieur, hein, avec le manque total de direction, avec une équipe qui est un peu en roue libre, comme on le dit là. On a un président intérimaire. Est-ce qu'un club comme l'Olympique Lyonnais, c'est fou d'avoir un président intérimaire? À un moment, c'est l'Olympique Lyonnais, donc il faut que les choses soient cadrées. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui mène la barque. C'est pas à l'entraîneur de mener la barque. C'est pas à Mathieu-Louis Jean de mener la barque. Il doit y avoir un directeur sportif. Il doit y avoir un président. Là, on est, en fait, Lyon, c'est un club qui a continué à fonctionner trop longtemps comme il l'a fait pendant ses grandes années. Et c'était très bien à l'époque. Le football n'a pas attendu l'Olympique Lyonnais. Le football a continué d'évoluer. La data est arrivée. Les clubs se sont structurés. Et maintenant, même un club comme Reims, un club comme Le Havre, ils arrivent avec humilité, ils travaillent correctement, ils mettent les bonnes personnes, ils construisent un vrai staff, ils ont une direction. Les joueurs sont tous talentueux aujourd'hui en Ligue 1. Alors il y a les cracks, mais le reste c'est tous des pros, c'est des joueurs qui ont du niveau, qui ont de la capacité. Donc si on les met sur le terrain avec une idée, une direction et qu'un club qui sait ce qu'il fait, ils doivent être capables de jouer. Lyon a en plus des moyens que les autres n'ont pas. Donc voilà, il faut se rendre compte de ça, il faut mettre les choses en mouvement pour retenir ça. Maintenant j'espère juste que c'est pas trop tard et qu'on aura le temps de le faire.
On n'est qu'à la 7e journée, c'est vrai, pour l'instant quand même. On va écouter justement l'un des tauliers de ce vestiaire lyonnais, c'est Anthony Lopez, le gardien, qui conclut rien lâcher comme le reste
que de j'ai pas trouvé saignant sur le deuxième but.
Exactement.
Ouais, l'ouverture du score pour les Montpellierains sur ce contre. Rondement mené, on va surveiller s'il n'y a pas de position de hors-jeu et devant ses supporters.
Il n'y a plus qu'un seul défenseur.
Oui, mais ils ont été complètement pris en contre, les joueurs lorientais sur ce coup-là. C'est bien mené, très rapidement mené. Et ça vient récompenser la domination des Montpellierains quand même sur cette première période avec ce but inscrit par Tamari, me semble-t-il, parce que j'avais encore l'œil sur la gauche sur ce qui se passait du côté lorientais et ça a été tellement vite du côté montpelliérain. Il me semble que c'est Tamari. On va vérifier ça dans un instant. Mais en tout cas,
c'est accord Adams. Hein.
Ah, c'est accord Adams, tu vois. Oui. J'avais vraiment le regard sur la gauche parce que je comprenais pas cette perte de ballon l'orienté. J'étais en train d'essayer d'isoler le coupable. Et résultat, eh bien, ce sont les montpelliérains.
On va regarder, je vais te dire. Donc là, il y a pas en jeu.
Ouais, c'est Adams qui marque effectivement bien.
Mais là, il y a en jeu, puisqu'il n'y a plus qu'un seul défenseur.
Est-ce qu'on passe en retrait, coach? Normalement, ouais.
Ben non, elle n'est pas en jeu.
Alors l'engagement est pas donné encore, mais il va être donné à mon avis, et ce but va être validé par Jérémy Stignat. Pour tout dire, moi j'ai pas revu les images. Voilà, c'est validé, donc ça fait 1-0 pour les Montpelliérains.
Après, si la passe, elle est un petit peu en retrait, coach, donc du coup il n'y a pas en jeu.
Ah bon?
Ouais, ouais. Pour le coup, soyez pas sur la même ligne. Il est vraiment juste un petit peu en retrait. Et le but, bon, en tout cas, il est accordé.
Il n'y a pas deux défenseurs, il faut deux défenseurs.
Oui, mais si la passe est en retrait. Tu peux pas avoir juste une passe en retrait.
Bon, écoute.
Bon, en tout cas, le but est accordé, ça fait 1-0.
Bravo, et tant mieux pour Montpellier.
Ça fait 1-0 pour Montpellier. On va remercier Sam, supporter lyonnais, qui était avec nous au 32-16. Merci beaucoup, Sam. Bon courage pour la suite de la saison. Peut-être que la lumière est au bout du tunnel, hein, encore ton coach Fabio Grosso. Merci, Sam. Les rendez-vous rugby du jour. Pierre Abadan est toujours avec nous. Afrique du Sud Tonga, c'est à 21h. Les Sud-Africains, probables adversaires des Bleus en quart de finale. On vous donnera les dernières infos auprès des Bleus qui sont à l'entraînement en ce moment même. Mais d'abord à 17h45, Australie-Portugal. Et là, on est très loin des quarts de finale. On est même plus proche de la sortie pour les Australiens. Julien Richard va commenter tout ça pour RMC. Salut Julien.
Salut Flora, salut Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Salut Julien.
On pensait en préparant ce match que l'Australie serait déjà éliminée, mais non, c'est pas le cas Julien. Il y a encore un tout petit orteil des Australiens qui s'accroche à cette Coupe du Monde.
Ça commence à ressembler à un supplice chinois pour les Australiens. Alors, qui seront éliminés après ce match s'ils s'inclinent évidemment contre le Portugal, et il y a une autre possibilité s'ils remportent ce match mais sans le point de bonus offensif. Sans le point de bonus, ils sont éliminés et ils rentrent au pays. Je vais vous dire pourquoi ça a une importance. S'ils gagnent avec le bonus, ce qui paraîtrait logique ce soir, il suffirait un point de bonus aux Fidjiens dimanche 8 contre le Portugal pour qu'ils soient définitivement éliminés, les Australiens. Ça veut dire que ce soir, les Australiens, s'ils gagnent avec le point de bonus offensif, ils vont devoir attendre en France sans avoir plus aucun match à jouer jusqu'à ce que les Fidji jouent contre le Portugal. Une petite semaine de vacances en perspective pour
un petit peu tendu les vacances
effectivement.
C'était prévisible de retrouver les Australiens dans cette situation là.
C'est jamais arrivé, hein. Ce sera la
Ils n'ont jamais été éliminés en phase de poule.
Et moi je t'annonce, Julien, qu'ils ont déjà pris les billets avec option. Avec des options de départ. La messe elle est dite pour eux, tout le monde le sait, les joueurs les premiers. Maintenant ils veulent montrer qu'ils ne sont pas aussi ridicules que ce qu'ils ont été jusqu'à présent, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire contre les Portugais. Et si on fait un petit jeu de comparaison, les Portugais, ils ont fait match nul contre la Géorgie, qui a donné énormément de difficultés aux Fidji
hier.
Donc ils peuvent gêner ces Australiens qui mettent leur meilleure équipe du moment. Ça ne va pas dire grand chose, mais bon, je pense que ils ne vont pas être ridicules sur toute la ligne de la Coupe du Monde. Les Australiens, ils vont vouloir absolument faire une belle sortie, à voir ce que les Portugais vont pouvoir faire en face. On rappelle, les Portugais, ils auraient mérité de gagner contre la Géorgie quand même. Et la Géorgie aurait peut-être mérité de gagner contre les Fidji, qui eux ont battu les Australiens.
Ça s'est joué un coup de pied à la fin.
Ouais, exactement. Donc finalement, on pourrait croire que le match va être homogène et serré, ce qui est possible. Et je pense quand même que les Australiens, ils vont vouloir montrer un autre visage. Parce que franchement, jusqu'à présent, ils ont été ridicules, il faut le dire. Ça peut s'expliquer par des choix de joueurs, par le changement d'entraîneur qui n'a pas fonctionné. Un peu comme à Lyon, on en parlait il y a quelques secondes. Mais voilà, c'est leur tableau final. Après, ils attendront les Fidji. Et il y a peu de doutes quand même sur la capacité des Fidji à prendre 0 points contre le Portugal.
Oui, effectivement. Dernier mot, Julien, aussi peut-être, on en parlait du coach qui est très critiqué depuis le début du mondial. On va le rappeler, il y a la perspective de cette Coupe du Monde 2027 qui se jouera en Australie. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'Eddie Jones après ce mondial raté?
Lui laisse pas trop planer le doute, même ses adjoints comprennent pas trop les critiques autour de, d'Eddie Jones qui voilà, rassemble un peu autour de ses choix.
Et qu'est-ce qu'ils veulent avoir des compliments?
Non, pas des masses. C'est sûr, ils ont gagné depuis qu'il est arrivé en tant que pompier de service finalement, hein, puisqu'il est arrivé en janvier 2023 pour essayer de redresser la barre. Une seule victoire sur 8 matchs, donc ça n'a pas marché. Tiens, peut-être qu'on a le temps, Florent, je sais pas, d'écouter les.
Si tu le fais exprès, c'est difficile avec l'effectif de l'Australie.
Ouais. D'écouter les supporters australiens, justement.
Allez,
quand
vas-y.
On prononce juste le mot Eddie Jones. Écoutez.
We want Eddie Jones to stay in France.
On veut que Eddie Jones reste en France. Il ne veut pas à la maison. Il n'est plus le bienvenu. Comment je pourrais dire ça gentiment? Il a niqué notre équipe. On est une équipe du tier 1 et on ne va pas sortir des poules en perdant contre le Pays de Galles et les Fidji avec un plan de jeu embarrassant. Donc pas besoin qu'il rentre. Eddie Jones est le détonateur. On a besoin d'un reset complet maintenant.
Voilà. J'espère qu'ils ne vont pas chanter la chanson Eddie Jones.
On a la suite.
On a vu des pancartes avec des supporters portugais qui disaient croissant et baguette pour Eddie Jones. C'était en référence à une vidéo qui avait été tournée avant où il disait qu'il n'était pas en France pour acheter et manger du pain et des baguettes. Il y a une super ambiance peut-être pour terminer, messieurs, Florent, ici à Saint-Etienne. C'est l'hymne du Portugal que vous entendez derrière moi. Le stade est plein, il fait 26 degrés. Il y a une ambiance incroyable mise par les supporters portugais. Et puis les Australiens, eux, je peux vous dire qu'ils passent un meilleur séjour que leurs joueurs. On les a vus en terrasse boire des coups pour oublier un peu tout ce qui se passe dans leur équipe. Ils vont savourer.
Eddie Jones a cherché un peu cette situation. Il a été hyper provocateur. Après, dans toutes ses interventions, dans toutes ses conférences de presse d'après défaite, il a repoussé en disant « vous verrez bien, je vais tous vous faire taire ».
Il n'a fait
taire personne et il va rentrer à la maison. Donc après, repartir pour 4 ans sur ce constat-là, bon courage. Hein.
On a du mal à voir, effectivement.
C'est le cousin de Chloé, la méthode.
Oui, c'est ça, la méthode Chloé, exactement. Julien, on te retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette Australie-Portugal. Le temps, le score en Ligue 1, Pierre-Yves Leroux entre Lorient et Montpellier.
38e minute de jeu au Moustoir, 1-0 pour les Montpelliérains avec ce but inscrit à la demi-heure de jeu par Cor Adams.
Allez, on revient dans quelques instants dans l'intégrale foot sur AMC. Il est 17h42, le coup d'envoi d'Australie-Portugal. Et puis on va vous donner aussi des nouvelles du 15 de France qui est en l'entraînement en ce moment avec un certain Antoine Dupont. A tout de suite sur RMC.
RMC, intégrale foot.
Flora Moussi.
Il est 17h45, de retour dans l'intégrale foot avec coach Courbis et Pierre Rabadan. On va tout de suite en Ligue 1, on suit la 7e journée, on approche de la mi-temps entre Lorient et Montpellier. Les Montpelliérains sont devant, Pierre-Yves Leroux.
Et oui, ils font la belle opération pour le moment puisque grâce à ce résultat, eh bien, ils passent dans la première moitié du championnat. Ils mènent 1-0 grâce à Cor Adams à la 30e minute et ils se retrouvent au classement 8e alors que les Lorientais, eux, ont plongé dans la zone rouge. Ils sont 16e avec cette nouvelle défaite qui se profile pour le moment. Mais on est encore loin évidemment de la fin de cette rencontre. On est à la 41e exactement et les Montpelliérains ont concrétisé leur domination, notamment de première moitié de cette mi-temps. Les Lorientais s'étaient réveillés un petit peu, s'étaient créé une belle occasion notamment par c'est Touré qui avait eu cette belle tête sur un corner frappé par Le Goff avec la main ferme de Benjamin Lecomte. Mais les Montpelliérains qui continuent à pousser avec une nouvelle opportunité, pourquoi pas avec Wahbi Khazri à l'entrée de la surface de réparation. Est-ce qu'il va passer tout le monde? Est-ce qu'il va rentrer? Ouh, c'était chaud. Et finalement Mvogo qui se jette dans ses pieds et qui réussit à récupérer le ballon. Wahbi Khazri qui était tout près du 2-0. Et les Lorientais qui en contre dans les transitions vont pas aussi vite que d'habitude. Les Montpelliérains, eux, sont bien revenus. Le bloc s'est replacé à l'image de Sacco qui récupère ce ballon. 42e et toujours 1-0 pour Montpellier.
Ouais, finalement, on est plus proche du 2-0 pour Montpellier, coach, que du 1 partout hein, pour Lorient.
Ben pour le moment, oui. Donc il y a une équipe de Montpellier qui est totalement différente.
Et attention, encore Adams avec Wahbi Khazri. Le ballon récupéré par Adams qui réussit à transmettre. Les Lorientais qui réclamaient une faute. Et finalement, eh bien, ce ballon qui va passer à côté des buts de Mvogo. On est vraiment tout près du 2-0 pour les Montpellier.
Ouais. Mais on s'approche tranquillement de la mi-temps.
Je te disais, on voit une équipe de Montpellier totalement différente que celle qui joue à domicile en ce moment, qui n'arrive pas à faire le jeu avec, paraît-il, une pelouse catastrophique.
Ouais. Ok, il reste allez, quelques minutes dans cette première période pour les Lorientais. 3 précisément sans le temps additionnel pour revenir. Merci Pierre-Yves. C'est parti aussi dans la Coupe du Monde de rugby. Peut-être le dernier match de l'Australie dans cette Coupe du Monde. Ça vient de partir face au Portugal, Julien Richard.
Oui, depuis 2 minutes et 24 secondes, 0-0, rien de marqué. On a eu une première occasion des Australiens, mais un en avant et une première mêlée à l'instant, là, dans les 22 mètres du Portugal. Les Portugais entraînés par Patrice Lagisquet, qui d'ailleurs sont sanctionnés sur cette première mêlée. Pénalité pour l'Australie dans les 22 mètres. On va voir ce que vont choisir de faire les Australiens. A priori, là, il faudrait prendre les points, mais on est dans un dernier match. Comme tu le disais, Flora, puisque l'Australie est aux portes de l'élimination, ils vont la tenter, cette pénalité. Vous entendez les sifflets des supporters portugais.
Manque de confiance, là aussi, Pierre.
Là, ils sont au fond du trou, là. ils font plutôt une bonne entame. Hein. Maîtrisé là, sur plusieurs séquences.
Mais on voit la lumière au bout du tunnel.
Ouais,
mais
là, alors... peut-être moins loin que pour Lyon, mais ouais. Non, je ne sais pas, mais... c'est quand même très étonnant comme signal pour un dernier match où ils ont quand même plus grand chose à jouer, de commencer par 3 points. Mais bon, quand t'as pas confiance, ben ouais, tu rebâtis pierre par pierre.
On va rappeler Julien qu'il
frappe pas sur le poteau.
On va rappeler Julien que s'ils veulent rester en vie, en tout cas le plus possible dans cette Coupe du Monde, faut prendre une victoire bonifiée aujourd'hui.
C'est ça. Mais alors je vous la pose parce qu'on l'évacue. Je vous la pose parce qu'on l'évacue tout de suite une question. Vous allez me hurler dessus, mais Pierre, est-ce qu'on peut se dire que les Australiens n'ont pas envie de marquer ce point de bonus offensif et de rentrer,
pour rentrer direct
à la maison? Non.
Ça me semble compliqué quand même. Mais c'est quand même un choix extrêmement étonnant compte tenu de ce paramètre-là.
Ouais.
Mais écoute, soit ils ont peur de perdre contre le Portugal, parce que tu peux pas complètement exclure.
Bah ouais.
Ce qui explique ce choix-là. Soit Eddie Jones a dit prenez tous les points au pied dès que vous avez une pénalité, parce qu'il faut au moins qu'on gagne deux matchs dans la poule, mais c'est très étonnant.
Juste à noter, c'est donc la pénalité est passée. Hein. Ben Donaldson, 3-0 pour l'Australie. L'Australie qui n'a pas d'ouvreur de formation sur la feuille de match aujourd'hui, puisque Donaldson est un arrière habituellement. Vous savez que Carter Gordon a été en difficulté, l'ouvreur. Bah, il est blessé juste avant le match, changement de dernière minute forcé pour Eddie Jones. Et donc, il n'y a pas d'ouvreur.
Et on rappelle, Julien, que c'était le choix d'Eddie Jones, hein, de ne pas prendre qu'un seul ouvreur dans les 33.
Bah, disons qu'il était, de l'équipe d'Australie. Il a été inspiré de A à Z.
Il a été bien. Pourtant, c'est ce que l'on fait que balancer sur lui, et moi le premier, à juste titre, sur cette Coupe du Monde. Mais c'est à quelqu'un qui a quand même eu des résultats il y a quelques années avec l'Australie, qui a construit aussi les grands succès du Japon, notamment dans la Coupe du Monde. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas le rugby, mais peut-être que sa méthode, notamment en Angleterre, avait déjà été assez décrié. Et peut-être qu'il faut qu'il mette son logiciel à jour, Eddie Jones.
Elle fait parler. Effectivement, 3-0 en tout cas pour l'Australie face au Portugal. On va prendre des nouvelles du 15 de France, messieurs, maintenant. Quatrième et dernier match de poule pour les Bleus. Vendredi prochain, ce sera à Lyon face à l'Italie. Le 15 de France était à l'entraînement il y a quelques minutes et nos reporters sont sur place et ont suivi tout ça. Et notamment Winnie Claret. Salut Winnie!
Salut Flora, salut Pierre, salut tout le monde.
Salut, oui. Salut.
La question qu'on se pose, c'est de savoir si Antoine Dupont était là à l'entraînement aujourd'hui.
Alors oui, effectivement, il y était déjà ce matin, il y est à nouveau cet après-midi, hein, entraînement qui a débuté il y a quelques minutes. Lui, 10 jours après sa fracture de l'os maxillo-zygomatique, c'est-à-dire de la pommette et de la mâchoire droite, 9 jours seulement après son opération à Toulouse, eh bien, il est là. Pour l'instant, il est sous la grande tente qui sert de salle de musculation juste à côté de la pelouse, alors que les joueurs qui disputeront le dernier match de poule contre l'Italie vendredi prochain, ben eux, ils s'entraînent face aux espoirs de Montpellier à l'instant. Ce matin, le capitaine des Bleus était aussi là lors de la séance de clarté. Vous savez, c'est cette séance où l'on répète les lancements de jeu, mais au pas. Lui, il s'est échauffé seul avant d'entrer sur la pelouse, accompagné du manager santé Bruno Boussagol et du préparateur physique du 15 de France, Gaëtan Boissard. Il s'est échauffé, il a fait quelques tours de terrain, puis il a tenté des passes des deux côtés dans l'embute, avant de tenter quelques drops, des courses en marche arrière, et puis même des accélérations sur une moitié de terrain. Bref, il est monté crescendo à Antoine Dupont. Alors, est-ce qu'il a déjà passé son contrôle neurologique? Le staff l'a annoncé jeudi, puisque le choc qui lui a fracturé la pommette a aussi causé une commotion cérébrale. On ne manquera pas évidemment de demander à Karim Ghezal, puisque l'entraîneur des Avants sera là ce soir devant la presse. Il nous en dira évidemment plus. Voilà pour l'instant les nouvelles d'Antoine Dupont.
Quelle rapidité, Pierre, quand même, pour Antoine Dupont. La détermination, évidemment, on est en Coupe du Monde, mais c'est fou de le voir déjà revenir à l'entraînement.
Oui, ça pose question, on en parlait hier, mais il y a eu des précédents déjà, avec la même type d'opération, et qui sont revenus même plus vite que déjà Antoine Dupont. Je crois qu'ils ne prendront pas de risques, en tout cas neurologiques et tout ce qui est lié à la commotion. Après, si il a l'aval des chirurgiens, du neurologue et qu'il se sent bien, il n'y a pas de raison non plus qu'il joue pas. Donc voilà, il faut évidemment pas prendre de gros risques. Et je pense que chacun mesure. Pour le quart de finale. Ouais. Non, l'Italie, je pense que c'est réglé. Voilà, mais ça, je rigolais en entendant Winnie, parce qu'entre séance de clarté et le manager santé, je viens dans un dialecte.
C'est un tout nouveau lexique que l'on découvre.
Voilà, là, il va falloir que je mette mes fiches à jour aussi.
Winnie, tu ne bouges pas, on va revenir avec toi pour les dernières infos du 15 de France, juste en Ligue 1. C'est la mi-temps, Pierre-Yves Leroux, entre Lorient et Montpellier. Et Lorient aurait bien pu revenir hein, juste avant la pause. Hein.
Oui, avantage pour les Montpellierains au retour au vestiaire, puisque Accor Adams a ouvert le score à la 30e, mais on restera sur cette impression donnée par les Lorientais et cette barre trouvé par Théo Lebrys dans les arrêts de jeu de cette première période. Benjamin Lecomte sauvé donc par ses montants.
La barre et le sauvetage du défenseur, parce qu'il avait réussi à cadrer Lorient.
Isaac Touré à la tête derrière, qui allait remettre ce ballon au fond des filets, effectivement aidé par la barre et son défenseur. Donc c'est pas terminé hein, dans cette rencontre. Les Montpellierens mènent 1-0, mais les Lorientais vont tout faire pour revenir évidemment en deuxième période.
Merci beaucoup Pierre-Yves, on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période de ce Lorient-Montpellier. On est toujours avec Winnie Claret qui suit le 15 de France au plus près. On parlait d'Antoine Dupont qui était de retour à l'entraînement.
Quel est qui a même fait du vélo à l'instant. Voilà, comme ça vous savez seconde par seconde ce que fait le capitaine des Bleus.
Mais c'est parfait ça aussi, le retour aussi pour le cardio, il faut faire travailler tout ça. Quelle est la dernière tendance justement concernant Antoine Dupont? Pierre parlait évidemment pas de l'Italie mais du quart de finale et c'est ce qu'ils ont dit aussi autour du 15 de France aujourd'hui.
Alors pour l'instant autour du 15 de France on en a beaucoup dit et c'est pour ça que Bruno Boussagol, le fameux manager santé dont parlait Pierre tout à l'heure, eh bien il est venu remettre un peu les choses au clair jeudi en disant voilà, pour l'instant on n'en est même pas encore à ça, c'est-à-dire à parler de son retour sur les terrains. On en est d'abord à cocher certaines étapes obligatoires. Le chirurgien qui l'a opéré à Toulouse vendredi dernier, ok, ça c'est check, feu vert, il peut revenir avec le groupe. Il est rentré donc hier tard dans la nuit, ça c'est fait, il est maintenant à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, il s'agit justement de le faire reprendre tout doucement pour tenter de voir un petit peu quel est son ressenti physique à lui, parce qu'évidemment que c'est aussi en fonction de ce qu'il ressent qu'on ira un petit peu plus loin avec le capitaine des Bleus. Ce qui est sûr, Bruno Boussagol l'a dit, tu l'as dit aussi Flora, c'est que il ne jouera pas contre l'Italie vendredi prochain. Est-ce qu'il sera là pour le quart de finale? On a entendu certains dire qu'il serait très étonné de ne pas le voir ou de qu'il ne soit pas en capacité de jouer ce quart de finale. Ils avaient l'air tous très confiant, mais l'heure aujourd'hui est à la prudence. On n'a pas encore passé certaines choses. Je vous parlais du contrôle neurologique, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Je vous parlais de son ressenti, on ne sait pas encore si demain il aura un mauvais ressenti après les quelques vibrations qu'il a prises lors de ses courses du matin. Donc voilà, on y va vraiment tout doucement avec le capitaine des Bleus.
Ouais, mais c'est tout à fait logique et intelligent, puisque là on vient de régler là, un peu de temps le problème. Ben, il n'y a pas la possibilité qu'il puisse jouer contre l'Italie. Donc l'objectif, c'est les quarts de finale, avec tous les tests qu'il va y avoir et aussi savoir comment lui va se sentir. La première des choses, déjà pour l'ambiance, compte tenu de ce qu'il représente à l'intérieur de ce vestiaire, ben, je pense que Pierre me le confirmera, que c'est déjà très extraordinaire qu'il puisse retrouver ses coéquipiers, parce que le Dupont que nous allons avoir en quart de finale, ben ça sera un Dupont courageux. Mais est-ce que ça sera un Dupont à 100, à 80, à 50%?
Pour savoir déjà,
ça on ne le sait pas.
Hein. Il faut qu'il passe toutes les étapes. Et je crois que c'est bien ce que Winnie a déclaré et ce qui est dans l'objectif du staff de l'équipe de France. Voilà, il va avoir un ressenti perso. Il y a un protocole de reprise qui a été très défini et très cadré. Donc s'il passe toutes les étapes, il sera là. Il pourra peut-être démarrer ou être sur le banc contre l'Afrique du Sud. Il faudra voir le comportement des deux autres demi-mêlées aussi contre l'Italie. Je pense qu'ils ne prendront pas de risques, parce que pour connaître un peu le staff, j'imagine qu'ils se projettent au-delà du quart de finale. Mais effectivement, c'est le capitaine de l'équipe de France. Mais il jouera, s'il est à 60%, il ne jouera pas, ça je vous le garantis.
Le coup qui démarre, par exemple, il y a un problème avec lui, c'est qui l'autre numéro 9?
Baptiste Couillou, Roland, jusqu'au retour d'Antoine Dupont.
Je parlais de Maxime Lucu.
Il démarre, lui, le match. Voilà. S'il y a un problème, c'est Couillou qui le remplace. Donc.
Exactement.
Tu parles de qui? De Dupont? Si Dupont démarre.
Non,
Lucu. Oui, c'est Lucu.
Pierre, concentre-toi, s'il te plaît.
Excuse-moi, on parlait de Antoine Dupont, donc.
Et oui, l'autre option, c'est Baptiste voilà. Couillou. On va en reparler dans quelques instants tout à l'heure. Merci beaucoup, Winnie. On te retrouvera, toi ou Julien Richard, ou je ne sais pas, tout à l'heure à 18h30. Une fois que tout ça sera terminé, une fois que l'entraînement sera bien terminé, on fera un point complet.
On vous tient au courant, en tout cas, c'est
promis. Voilà, exactement. Merci beaucoup,
Winnie. Des questions pour toi, oui.
Le temps, le score, Julien Richard, entre l'Australie et le Portugal.
3-0 pour l'Australie, 10 minutes de jeu, mais c'est une régalade là pour l'instant que nous offre le Portugal. Passe après, contact, Chistera, combinaison, ils sont incroyables, ils viennent de terminer une phase.
Ils sont proches de la ligne, hein.
13 phases de jeu et ils ont mis sous pression les Australiens avec Corey Bettel, l'ailier qui a dû sortir des limites de son embut. Du coup, mêlé à 5 mètres avec introduction pour le Portugal, poussé par un public portugais très nombreux ici à Geoffroy Guichard. Ils sont menés 3-0, mais ils régalent, ils remontent tous les ballons, ils n'ont quasiment pas tapé au pied. Il a poussé de la mêlée, il y a Nick Frost, l'Australien, qui est en plus blessé, donc elle tourne cette mêlée. Le ballon pour les Portugais, avec peut-être le premier essai de la partie. Ici, le ballon va au large, c'est bien stoppé là par les Australiens. On est à 5 mètres de la ligne d'embut avec la charge maintenant de Thomas Appleton, qui est stoppé à 50 cm de la ligne d'embut. Pour qui ce ballon? Est-ce qu'il vit toujours? Oui, sorti par Samuel Marquez, le demi de mêlée de cette équipe portugaise. Mais la grosse défense là de l'Australie, ils ont repoussé à 5 mètres les Portugais. Ça chauffe sur l'embut de l'Australie dans ses débuts de match. La balle pour Martin Bello qui relève le ballon, qui est poussé par ses avants, également par ses coéquipiers. De nouveau là, la troisième ligne qui part avec David Wallis qui ne progresse pas. Le ballon, on est au pied des poteaux maintenant. Le jeu vers le large, vers le centre, l'essai portugais. Magnifique. On sent devenir Pedro Bettencourt en bout de ligne là, qui va plonger dans l'embut et offrir la première sensation de cette partie. Le Portugal mène devant l'Australie 5-3. Magnifique ce que nous a offert le Portugal depuis maintenant 5 bonnes minutes, où ils ont monopolisé le ballon et concrétisé par cet essai du centre Pedro Bettencourt, le joueur d'Oyonnax en Pro D2. 5-3, 12 minutes de jeu, transformation à suivre.
Magnifique et mérité, hein, parce qu'ils ont vraiment construit cet essai de part et d'autre avec une mêlée dominante. Ils avaient un avantage en cours et ils ont balayé les deux largeurs du terrain, et cette dernière passe pour trouver Bettencourt est somptueuse, et ils sont dans le match. Et ouais, je voulais dire, les Australiens, peut-être qu'ils veulent juste déjà gagner le match. Et en tout cas, ils nous régalent, hein, ces Portugais, depuis deux matchs maintenant. Ils sont à la hauteur, même plus, de ce qu'on attendait d'eux. Et c'est aussi ce qu'on aime dans ces Coupes du Monde. Même s'il y a des gros scores parfois, il y a toujours des équipes surprises. Et là, c'est magnifique ce qu'ils nous offrent. Vraiment, on se régale.
On va voir si ça dure pour le Portugal qui mène donc face à l'Australie. Il est 18h sur RMC. On revient dans quelques instants avec l'Intégral Foot, avec Pierre Abadan, avec Coach Courbis pour la seconde période de Lorient-Montpellier. Montpellier qui mène 1-0 face au Lorientais. Et puis évidemment, la suite de ce fabuleux Australie-Portugal. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Flora Moussi.
18h03 sur RMC, de retour dans l'Intégral Foot. On est en direct du studio RMC Place de la Concorde à Paris. On est avec Pierre Abadan, coach Courbis. On vous attend, supporters, au 32-16 pour venir participer avec nous. On va revenir dans quelques instants sur la victoire de Lille face au Havre. Mais avant la reprise de la seconde période entre Lorient et Montpellier, et bien on parie tout de suite sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1-0 à la pause pour Montpellier, on vous le rappelle, avec notre expert en paris sportif, Johan Bredov. Salut Johan.
Salut Flora, salut coach, salut à tous.
Quels sont les cotes pour cette seconde période à venir?
Eh bien, Montpellier archi favori forcément, avec ce léger avantage. 1,37 la victoire des Montpellier, 1,390 le nul, 8,50 la victoire de Lorient avec Sébastien Piocel. On avait parié sur la victoire de Lorient, comme quoi on sent bien les coups. C'est incroyable.
C'est pas fini?
Bah non, c'est pas fini. Bah, j'y crois encore, moi, la victoire de Lorient. 8,50, j'ai envie d'y aller. Ou alors juste Lorient ne perd pas cette rencontre. Et ça, c'est coté à 2,90, coach.
Allez, un partout pour moi.
Ah, le 1 partout, le score exact, ça c'est parfait. C'est coté à 4,60, on coûte.
C'est pas mal, on prend. Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, la seconde période de Lorient-Montpellier dans quelques instants. On fait un détour par le rugby. L'Australie face au Portugal. Julien Richard avec peut-être un gros coup dur à venir pour les Portugais. Là, hein.
Oui, puisqu'il mène 7-3. On le rappelle, 15 minutes de jouer dans cette rencontre. Il y a une pénalité pour l'Australie pour revenir à un point. Elle est face au poteau à 45 mètres. Donaldson s'apprête à la taper. Le ballon qui s'élève et le ballon qui ne passe pas. Elle est ratée, cette pénalité. Pourquoi il y a eu une pénalité ? Parce qu'il y a eu un carton jaune contre justement celui qui a marqué l'essai portugais, Pedro Bettencourt, pour un contact épaule, tête sur un plaquage. Il ne s'est pas baissé. Ce qui fait qu'il y a un bunker actuellement, hein, un carton jaune. Donc il est sorti pour 10 minutes, mais ce carton jaune pourrait se transformer en rouge. Mais Pierre, je sais pas, sur le match d'hier, il y en a eu deux comme ça, à aucun moment ils sont devenus rouges. Donc on va surveiller ça.
J'espère pour les Portugais qu'il sera plus de la couleur de l'Australie que de leur maillot à eux. Mais après, il y a contact épaule-tête. La seule chose qui peut atténuer la couleur du carton, c'est qu'on considère que comme il y a un plaqueur en bas, il y a une circonstance atténuante et que le joueur australien soit en train de chuter, mais sinon c'est rouge. Hein. Donc on va voir.
Bon, tu nous diras ça, tu nous donneras la décision tout à l'heure, dommage, Julien, hein, mais ça gâcherait un petit peu ce début de match.
Il n'est pas sorti, hein, le joueur, Julien, pour protocole commotion, l'Australien.
Non, je ne crois pas que je ne l'ai pas vu sortir.
Allez, tu nous diras la couleur de ce carton définitive tout à l'heure, Julien. Vous le savez, dans l'intégral foot, tous les dimanches, c'est le rendez-vous. On donne la parole aussi aux supporters au 32-16. Soyez avec nous. On va revenir sur la victoire de Lille face au Havre avec Aurélien Tiercin qui est toujours au stade. Salut Aurélien.
Ah, salut Florent, c'est bien avec le micro ouvert. Salut
micro,
à tous.
Bah oui, tu sais, c'est un petit peu la base de la radio.
Oui, mais tu sais, je débute. je commence à fatiguer déjà.
Bon, alors raconte-nous tout, cette belle victoire lilloise 2-0 face au Havre aujourd'hui. C'est important aussi pour les Lillois de réagir après la défaite lors de la dernière journée.
Ouais, exactement, et ça a été parfait ou presque. Paulo Fonseca, l'entraîneur lillois, avait le sourire. Il a surtout parlé de défense, parce que c'est vrai que défensivement les Lillois ont été parfaits, jamais mis en danger par les Havrais, à part quelques flottements en tout début de match en ayant du mal à gérer la profondeur de Nabil Alioui ou Josué Casimir. Mais après, ça a été parfait. Lucas Chevalier n'a rien eu à faire, même le jeune Lenny Oro, 17 ans, a été parfait en charnière centrale. Et puis devant, ça a déroulé avec notamment un superbe Edon Zegrova, qui est le Ariane Robben, parfois du pauvre, parfois...
C'est australien, désolé Aurélien, l'Australie avec Richie Arnold, le Toulousain, qui vient en force là après une belle percée de Valentini, aplatir entre les poteaux. L'Australie reprend les commandes 8-7 avant la transformation, ça devrait faire 10-7 après quasiment 20 minutes de jouer en première période.
Ça joue dans ce match, en tout cas on se régale. Aurélien, on te laisse terminer.
Ouais, du coup Zegrova notamment qui a été le grand bonhomme du match avec un but fantastique à la 40e minute. Il passe double contact, deux défenseurs à vrai d'un coup. Il entre à l'entrée au coin droit de la surface de réparation et décoche une frappe dans la lucarne opposée. Magnifique. Et puis en deuxième mi-temps, c'est lui qui dépose un ballon parfait pour Cavalero. 2-0, voilà, il n'y a rien à dire. Le LOSC se remet parfaitement dans le sens de sa saison. Il y a un déplacement qui ne sera pas facile sur un terrain synthétique aux îles Féroé jeudi en Ligue Europa Conférence. Et puis le match le plus important de la semaine, évidemment le derby contre Lens à Bollaert. Il n'y aura pas les supporters lillois, d'ailleurs ils étaient quasiment 1000 ici au Havre, et ça a donné de la force aux Lillois. Rémi Cabella a dit tout le bien qu'il pensait du public lillois, et il est aussi un peu mécontent de voir l'interdiction de déplacement des supporters des Dogs à Lens le week-end prochain.
Ouais, c'est reparti en Ligue 1 entre Lorient et Montpellier. Les Montpellierains qui mènent 1-0 au Moustoir. On va y retourner dans quelques instants. Mais on termine avec toi, Aurélien. Un mot aussi du Havre qui a réalisé un énorme début de saison. Là, c'est un vrai coup d'arrêt. Et quand on regarde aussi le calendrier à venir pour les Havrais, ça peut peut-être un peu se compliquer.
Ouais, exactement. Les Havrais qui devront aller notamment à Marseille. Alors, c'est un coup d'arrêt. Il y avait quand même une superbe ambiance. Hein. Quasiment 22 000 personnes au stade Océane. Les joueurs ont pu compter sur un super soutien du COP à la fin du match. Malgré la défaite, ils n'ont pas montré grand-chose ce soir. Mais c'est que la deuxième défaite de la saison. On les attendait pas dans la première partie de tableau après 6 journées. Donc là, bon, ils sont vraiment dans le cœur, dans le ventre mou de la Ligue 1. Mais c'est déjà magnifique pour les Havrais. Il faudra résister peut-être au réveil des Marseillais de Gennaro Gattuso au Vélodrome la semaine prochaine.
Merci beaucoup Aurélien Tiercin pour cette victoire 2-0 de Lille sur la pelouse du Havre. Je vous le disais, c'est reparti en Ligue 1 du côté de Lorient face à Montpellier. Pierre-Yves Leroux.
Oui, 1-0 toujours pour les Montpellierains à la 47e, et un petit nouveau du côté de Lorient avec l'entrée en jeu de Mvuka à la place de Isaac Touré. Ça veut dire changement d'organisation, défense à 5 en première période pour les Lorientais. C'était le système de Régis Lebris depuis le début de ce championnat, et là on passe à 4 derrière. On s'interrogeait un peu cette semaine d'ailleurs sur la pertinence vu les difficultés lorientaises dans cette organisation, et bien là Régis Lebris a décidé de changer et donner un joueur offensif en plus, Isaac Touré, donc qui cède sa place à Mvuka. Les Lorientais qui restent sur cette barre trouvée par Théo Lebris juste avant la pause, mais des Montpellierains qui mènent 1-0.
Ah, tu les vois revenir à ces Lorientais, coach, tu penses qu'il y a, il y a matière, on l'a vu en fin de seconde période, de première période.
Ils ont quand même augmenté les chances en, en changeant l'organisation et en mettant un offensif à la place d'un défensif. Je trouve que c'est très bien joué de la part du coach de Lorient, puisque souvent on dit que il y a une formule, mais non, il y a une formule, et puis en cours de match, tu peux passer à une autre formule.
Ça peut changer. Ah ouais. Et puis on va voir si ça paye, en tout cas pour les Lorientais. Et Régis Lebris, la Coupe du Monde de rugby bat son plein en ce moment, RMC Radio Officiel, on vous le rappelle, on est en direct du studio RMC, place de la Concorde à Paris. Julien, le verdict, ce sera juste un carton jaune pour les Portugais.
Il ne changera pas de couleur, le carton jaune de l'auteur du premier essai de la partie pour le Portugal, Pedro Bettencourt, qui est donc sur le banc et pas avec ses coéquipiers pour encore 3 minutes et 30 secondes, mais c'est très chaud là pour les Australiens maintenant qui poussent dans cette rencontre. Ils mènent 10-7, la transformation a été passée, touche à 5 mètres de la ligne d'en but des Portugais, le ballon porté et le maul australien qui va aller, qui va aller, qui va y aller, qui est très bien construit, et qui va aller, essai australien. Voilà, les Australiens inscrivent le deuxième essai, leur deuxième essai, 21 minutes de jeu, 15 désormais pour l'Australie et 7 pour le Portugal. Ce carton jaune, alors est-ce que c'est un effet direct, en tout cas aura coûté cher aux Portugais qui ont encaissé deux essais, depuis la sortie de Bettencourt. Ils l'auront payé cash, mais on sent qu'ils sont en train de passer la vitesse supérieure aussi peut-être les Australiens après un début de match vraiment compliqué. C'est le talonneur et le capitaine David Poretsky qui inscrit donc avec tous ses avants cet essai, ce deuxième essai pour l'Australie.
Pour le moment, Pierre devine tout.
ils sont rugby, à croire qu'il en a fait. Hein.
Des difficultés.
On dirait un ancien rugby.
Des difficultés quand même à maintenir le paquet d'avant australien sur les ballons portés. Hein. On a vu déjà 2-3 fois des avancées notoires. Elle a un deuxième essai. Bon, à 14, hein, ça peut toujours être un moment charnière. Mais bon, j'espère qu'ils ne vont pas exploser en vol parce qu'ils ont vraiment réussi un super début de match, les Portugais. Donc il faut qu'ils reprennent les bases et qu'ils retrouvent leur égalité numérique pour reprendre la construction de ce qu'ils nous ont montré en début de match.
Ouais, parce qu'ils avaient bien débuté dans ce match. Allez, 18h12 dans l'intégral foot sur RMC. On revient dans quelques instants avec Pierre Abadan, avec coach Courbis pour la suite de cette intégral foot. On va revenir sur le Toulouse-Metz un petit peu plus tôt. La large victoire des Toulousains. On vous attend au 32-16 si vous voulez venir participer avec nous. A tout de suite sur RMC.
RMC, intégral foot.
Fleuramussi.
Il est 18h15. Merci d'être avec nous dans l'intégral foot sur RMC. Je suis avec coach Courbis et Pierre Abadan. On est en direct du studio RMC, place de la Concorde à Paris. Venez nous voir, venez nous faire des petits coucous, prendre des photos avec les deux messieurs qui sont très demandés, donc faudra faire la queue si vous voulez prendre des petites photos. Il y a toujours 1-0 en Ligue 1 entre Montpellier et Lorient, 1-0 pour les Montpellierains évidemment, mais on va du côté de Saint-Etienne retrouver Julien Richard. C'est la Coupe du Monde de rugby et l'Australie face au Portugal, Australie qui se rapproche de cette victoire bonifiée, hein.
Oui, puisqu'il vient de marquer le troisième essai de cette partie, Angus Bell, le pilier gauche là, qui a été lancé au ras du regroupement. C'était bien joué, troisième essai, 24-7, la transformation est passée, 27 minutes de jouer en première période, de nouveau à 15 contre 15 puisque Bettencourt, le centre portugais, est revenu après son carton jaune, mais ça commence à être un peu lourd pour les Portugais. Ils ont fait une super entame de match, les Australiens maintenant sont assez largement devant, 24-7, 3 essais marqués à un essai du point de bonus offensif.
Ouais, Pierre, on a l'impression finalement que l'essai portugais, ça a réveillé un petit peu l'orgueil, l'ego des Australiens aussi.
Ouais, sans doute un peu de ça, tu as raison, dans la spirale négative qu'ils ont, et puis en plus c'est au moment où ils se retrouvent en supériorité numérique, donc en accélérant, forcément ils ont trouvé des espaces et en fait, ce que les Portugais avaient très bien réussi contre les Géorgiens, ne pas rater de plaquage, c'est facile à dire hein, évidemment, mais là ils ont raté plusieurs 1 contre 1. Et derrière, si avec leur puissance physique, si les Australiens jouent en avançant, ils vont passer un début de soirée difficile les Portugais, mais on a envie de les voir réagir maintenant.
Ouais, ça en prend le chemin en tout cas pour l'instant. On va voir s'il y a un nouvel essai à venir pour les Australiens. En tout cas, on va en Ligue 1 en attendant avec Lorient qui essaye de pousser pour revenir face à Montpellier. Pierre-Yves Leroux.
Et la frappe de Mvuka qui n'est pas cadrée, elle est repoussée surtout. 1-0 toujours par les Montpellier après 56 minutes et ça ne sera même pas un corner. Ce sera une sortie de but pour Benjamin Costil qui retrouve son club formateur pour l'instant. Salut Porte-Bonheur. Il mène 1-0 avec ses coéquipiers et l'organisation plus offensive en 4-4-2 des Lorientais qui gênent un petit peu quand même cette équipe montpelliéraine. Ils vont être obligés eux aussi de s'organiser en fonction de ce nouveau schéma tactique. La sortie de balle signée Benjamin Costil, ça va partir sur la droite tout là-bas
Benjamin
devant
Lecomte.
Ah oui, pourquoi j'ai dit Benjamin Costil? Non, n'importe quoi.
Ça fait plusieurs fois, mais.
Oui, écoute, oui, je sais pas pourquoi. Je peux plus. Il y a un petit quelque chose dans le physique, mais effectivement, c'est bien Benjamin. C'est bien Benjamin Lecomte, qui est l'ancien Lorientais, parce que Costil n'avait pas du tout formé à Lorient.
Oui, puis il s'appelle Benoît.
En plus. Non, mais. Et quand tu vas voir Benjamin Mendy qui va rentrer tout à l'heure,
je vais complètement. On va te perdre, là.
Oui, oui, sachant qu'il y a aussi Formos Mendy du côté des Lorientais, mais qui est blessé. Et voilà, tiens, des changements, justement, du côté.
Il va rentrer Benjamin Mendy.
Exactement, Benjamin Mendy qui va rentrer dans quelques instants. Double changement à venir côté Lorienté. Merci. Tout de suite, tu me tapes sur les doigts. Hein. Tu n'hésites pas quand je me trompe.
Ah, je suis obligé de recadrer.
T'as raison. Ben oui, c'est dimanche. C'est compliqué. 1-0 pour les Montpellier. Un corner à venir et double changement du côté Lorienté.
Allez, on va te laisser souffler un petit peu, tu lui dis s'il se passe quelque chose, évidemment, mais vous le savez, la promesse de l'intégral foot tous les dimanches entre 17h et 19h, c'est de revenir avec vous aussi, supporters, sur les matchs de 15h. Et on a évoqué tout à l'heure la victoire de Lille, le match nul 0-0 entre Nice et Brest. Et maintenant, place à la belle victoire de Toulouse, 3-0 face à Metz, avec Romain Amalric qui était sur place pour RMC. Salut Romain.
Salut Flora, salut à tous.
Salut Romain.
Raconte-moi un petit peu cette démonstration toulousaine aujourd'hui.
Ouais, une démonstration qui a tardé quand même à venir. Il a fallu, c'est ce qu'on notait avec quelques confrères, finalement, le water break de la première période, parce qu'il faut préciser qu'il fait très chaud. Il a fait très chaud et il fait encore très chaud à Toulouse cet après-midi, plus de 30 degrés. Donc pour un match qui commence à 15h, évidemment, ça fait beaucoup. Donc il y avait des water break. Et c'est vrai que le début de cette rencontre était plutôt timide côté toulousain, avec une équipe mécène qui avait un bloc bas, qui jouait en contre, avec des contres qui auraient pu être efficaces dans les 20 premières minutes. On pense notamment à cette occasion incroyable dès la deuxième minute de jeu, Sabali qui met le ballon au-dessus des buts de Guillaume Rest, alors que il y avait quasiment plus personne dans les buts. Ça aurait évidemment changé énormément la physionomie de ce match, mais les Messins n'ont pas converti les occasions qu'ils ont eues en début de partie. Et après ce water break, eh bien, on a senti des Toulousains un peu plus revigorés. Il fallait peut-être prendre une petite gorgée d'eau et un peu plus présent en attaque dans la surface de réparation d'Alexandre Okidja. Il y a eu ce premier but de la part de Niklas Schmidt. Alors c'est surtout bien joué de la part de Aaron Donum qui lui met la balle en retrait pour qu'il mette ce ballon au fond des filets. Et ensuite, suite à ça, il y a eu une vraie 20 minutes des Toulousains qui ont été très efficaces offensivement. Il y a eu le deuxième but de Danny Ra. On l'attendait depuis un moment, ce but de Danny Ra. Il avait pu marquer depuis avril dernier en Ligue 1, même s'il avait marqué en pénalty en Coupe d'Europe. C'est différent là en Ligue 1, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc c'est son premier but cette saison en championnat. Danny Ra a marqué. Puis la deuxième période a été plutôt bien maîtrisée par les Toulousains, qui à la faveur de quelques changements, puisqu'il y a un match à négocier aussi en Coupe d'Europe la semaine prochaine, la réception du club autrichien du LASK de Linz. Voilà, donc il y a eu pas mal de changements et c'est finalement Franck Mangri, l'entrant, qui a marqué son deuxième but de la saison. Il a envoyé un missile sous la barre de Okidja. Les Messins n'ont pas montré grand chose finalement dans ce match, à part les quelques premières minutes. Donc victoire logique des Toulousains cet après-midi et première victoire au Stadium depuis le 19 février dernier. Voilà, il fallait gagner.
Ça c'est quand même incroyable.
Ouais, cette stat elle est pas mal.
Là j'aurais pas deviné.
Merci beaucoup Romain. On a eu l'avis toulousain, on va voir l'avis messin maintenant avec un supporter qui est avec nous. C'est Laurent qui est avec nous au 32-16. Salut Laurent, merci d'être avec nous sur RMC.
Oui, bonjour à tous.
Salut Laurent.
Salut.
Alors j'ai envie de dire, là, on a entendu le son de cloche côté toulousain où tout va bien là pour le moment. Côté messin, on marque un petit peu le pas. Il y a eu un très bon début de saison, puis là deux défaites de rang. Comment tu vis tout ça toi? Comment tu vois les choses?
Honnêtement, c'est pas une surprise. Coach Courbis avait dit il y a quelques temps qu'avec le départ de Miko Tsadze, on allait rentrer dans le rang, et effectivement on rentre dans le rang. On a une équipe qui techniquement est extrêmement faible. Il faut pas se cacher derrière le nombre de points qu'on a depuis le début de saison. La victoire contre Lens effectivement a été très très chanceuse. Bon, bien qu'on ait quand même résisté pendant longtemps aux assauts lensois. Mais je dirais que oui, on va être placé entre la 14e et la 18e place et on va batailler jusqu'au bout, quoi. Mais on a un jeu qui est bien trop restrictif. Effectivement, bloc bas, on espère sur un contre en début de match. Là, effectivement, ça aurait pu tourner en notre faveur avec Sabali en début de match. Mais oui, au niveau du jeu, c'est nul, quoi. On se fait balader par toutes les équipes. Là, on doit être sur du 70-30 en possession de balle. On fait systématiquement 2 à 3 fois moins de passes que l'adversaire. Donc, effectivement, ça peut fonctionner de temps en temps de gratter des points comme ça sur des contre-attaques. Mais sur une saison complète de Ligue 1, c'est pas suffisant, faut être honnête. Hein.
Ouais, on verra si évidemment objectif
faut pas être honnête,
mais c'est vrai que bon, ça va être compliqué, mais je pense qu'il y aura 4 ou 5 équipes
pour qui
ce sera compliqué. Et n'oublions pas qu'il y a seulement 2 descentes. Mais de notre côté, il n'y a plus que 18 équipes.
Et c'est ça aussi.
Oui, c'est vrai.
L'optimisme quand même. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous sur AMC.
On va passer une saison galère, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie du SMS, ça.
C'est ça. Ça monte et ça descend. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. Allez, on fait un tour des lives dans l'intégral foot. Le temps, le score en Ligue 1 entre Lorient et Montpellier, Pierre-Yves Leroux.
La 62e minute, toujours 1-0 pour les Montpellierains. À l'instant, le coup franc signé Mendy Benjamin de son prénom pour Benjamin Lecomte. Les bras solides. 62e, 1-0 pour Montpellier.
Allez, le temps, le score aussi. On suit la Coupe du Monde avec le match de l'Australie face au Portugal. Julien Richard.
Les Australiens étaient pas loin du point de bonus offensif, pas loin de marquer un quatrième essai. 33 minutes, il reste 7 minutes en première période. Ils mènent 24-7, mais défense héroïque des Portugais. Donc 24-7 à 7 minutes de la mi-temps.
Allez, les 18h24, l'intégral foot revient tout de suite sur RMC. On va vous donner des nouvelles dans quelques instants du 15 de France. Les toutes dernières infos depuis l'entraînement avec nos envoyés spéciaux. À tout de suite sur RMC.
RMC, intégral foot.
Flora Messi.
Il est 18h28, merci d'être avec nous dans l'intégral foot sur AMC avec Coach Courbis, avec Pierre Rabadan. On suit la Ligue 1, toujours 1-0 pour Montpellier face à Lorient. On va aller au Moustoir dans quelques instants. Mais du côté de Saint-Etienne, ça bouge aussi entre l'Australie et Portugal. Julien Richard, on était pas loin d'un essai portugais pourtant.
Ah ouais, 36e minute, il reste moins de 4 minutes à jouer. 24-7 le score pour les Australiens qui ont marqué 3 essais. Mais là, on a vu une nouvelle fois des Portugais qui nous régalent. Ils jouent tous les ballons et ils ont des joueurs avec des excellentes qualités puisqu'on a vu une percée énorme. Il me semble que c'était l'arrière Guedes qui a percé et malheureusement Nicolas Martins qui est le troisième ligne qui était positionné comme un ailier n'a pas pu aplatir, enfin il a aplati mais il a été poussé en touche. Un retour miraculeux d'Andrew Kelaway pour l'Australie pour sauver les Australiens d'un essai, mais ils vont une nouvelle fois bénéficier d'une munition les Portugais puisqu'ils vont avoir une touche sur la ligne des 22 mètres australiennes. Franchement, ils sont menés assez largement 24-7, on est à 3 minutes de la mi-temps, mais ils régalent depuis le début de cette rencontre les joueurs de Patrice Lagisqué, l'entraîneur français de cette sélection portugaise.
Ils y mettent du cœur en tout cas, ces Portugais.
On peut dire que Geoffroy, Guichard, Julien est portugais.
Et portugais ce soir, clairement.
Même ici à la Côte d'Or, on entend la foule.
Il y a beaucoup de supporters. Ouais.
Alors moins quand les Australiens marquent que quand les Portugais ont des actions de score. Mais bon, écoute, ils n'ont pas encore tout laissé. Mais c'est dommage d'avoir gâché cette occasion. Il est bien en touche. Bien sauvé par le défenseur australien qui projette ses jambes en touche alors qu'il a aplati. Donc pour la prochaine, j'espère. Mais les Australiens, en tout cas pour l'instant, à 2 minutes de la mi-temps, n'ont toujours pas le point de bonus qui peut les
maintiendrait en vie.
Hypothétiquement espérer. Mais les Portugais, ils nous régalent, ils jouent comme tu dis, et ça c'est ce qu'on aime voir en même temps.
Ouais, est-ce que les Australiens vont arriver à avoir ce point de bonus offensif qui les permettrait d'encore espérer pouvoir continuer dans cette Coupe du Monde? C'est le suspense dans ce match. On va en Ligue 1 cette fois-ci avec Lorient qui tente de revenir face à Montpellier, Pierre-Yves Leroux.
Oui, est-ce que les Lorientais vont eux avoir le point du nul? Ce ne sera pas le bonus, ni offensif ni négatif, mais au moins accrocher un nul, parce que sinon, en étant mené 1-0 comme c'est le cas la 69e, mais bien pour l'instant ils font une très mauvaise opération et glissent dans la zone rouge de ce championnat de Ligue 1. Eux qui avaient été si impressionnants en début de saison l'année dernière, et bien c'est plus compliqué pour le moment, avec un ballon récupéré avec Doucouré qui est servi, mais la défense montpelliéraine qui est très attentive. On a fait pas mal de changements, je vous avais parlé de l'entrée de Mvuka à la pause à la place de Touré, et bien on a vu Mendy et Igor Silva et également Doucouré donc rentrer du côté l'Orienté à la place de Kalulu, Le Goff et Kroupi, et puis du côté montpelliérain on fait tourner aussi, Chato et Yeboah sont rentrés à la place de Sako et Kazri. Tout petit avantage, un seul petit but pour les montpelliérains, mais avantage très important évidemment alors qu'on va rentrer dans les 20 dernières minutes de cette rencontre.
Ouais, écoute, il reste encore du temps hein, dans ce match hein, pour les Lorientais pour revenir. On avait encore une occasion tout à l'heure. Ça peut le faire, hein, Montpellier n'est pas à l'abri. Hein. Coach.
Il a un doute. Il réfléchit.
Oui, non, il a un doute, il réfléchit.
Ouais, regarde, si Montpellier est à l'abri, mais je crois qu'ils ne sont pas à l'abri.
Non, Montpellier sont... Ouais, je disais coach que Montpellier n'est pas à l'abri pour le coup.
Ah ben non. Sauf s'ils arrivent à faire le break avec ce deuxième but. Mais là, cette équipe de Lorient qui est maintenant un peu plus offensive va être un peu plus redoutable.
Ouais, on va rester un petit peu avec toi, voir justement si l'Orienté arrive. On est plus, ouais, on est plus dans le camp l'Orienté pour
ouais,
le coup.
Avec l'entrée dans la surface de réparation signée Yeboah qui est repoussé, qui reste au sol. Mbogo qui a pris un coup également, mais les Montpellierains qui continuent à pousser. Et puis ils mènent 1-0, mais ces changements effectués par les Lorientais alors qu'il y a la percée magnifique et peut-être le pénalty, oui, pour El Tamari. Moussa El Tamari qui est rentré comme une bombe là dans cette surface de réparation.
De break.
Il était ouais. Juste devant les yeux de Jérémy Stinat, juste devant nous aussi, et là il n'a pas hésité.
Il était lancé hein.
Ah ouais, comme une bombe, et pourtant il est là depuis 70 minutes lui à faire des courses, et il est toujours efficace, toujours rapide, et il va peut-être permettre à son équipe de prendre l'avantage avec TJ Savagnier qui s'est emparé du ballon pour aller marquer pourquoi pas un but très important alors qu'on est dans les 20 dernières minutes et que Benjamin Mendy vient lui parler à TJ Savagnier. Toute l'expérience du défenseur lorientais qui vient un petit peu le mettre en difficulté, pourquoi pas lui raconter des choses, on sait pas quoi, mais histoire de le perturber, alors que Jérémy Stinat est en train bien d'avoir les confirmations peut-être de la faute au niveau de l'arbitrage vidéo, entouré par quelques joueurs lorientais dans cette surface de réparation. Est-ce que ce penalty va être validé? TJ Savagnier qui attend la décision officielle, et c'est confirmé à l'instant par le geste.
Ça paraît, c'est assez évident quand même, oui. Coach. Hein.
Pas trop le geste du bras de Jérémy Stina qui confirme donc la décision, et TJ Savagnier qui va être en face à face avec Mbogo pour un but très important, la possibilité pour Montpellier de mener 2-0, ce qui serait le break comme tu le disais Roland, ouais. dans ces 20 dernières minutes, là, ça commence à être confortable,
même s'il y a eu le 2-0 et le 2-2 à Strasbourg. Évidemment que là on pourrait envisager,
ça sentirait bon,
ces trois points qui feraient énormément du bien.
Exactement, Michel Derzakarian évidemment un petit peu tendu avant ce coup de pied signé Savagnier, l'arbitre de la rencontre qui surveille que tout le monde est en dehors de la surface de réparation. Le coup de sifflet, Mbogo qui est prêt au centre de sa cage, le pied droit de TJ Savagnier, c'est parti, c'est puissant avec le poteau, elle rentre avec le poteau, 2-0 pour les Montpelliérains. L'avantage net maintenant, mais c'était risqué,
c'est parti du bon côté hein.
Alors, il était pas loin coach là pour le coup, mais en tout cas ça permet quand même à Montpellier de mener 2-0, de se mettre un petit peu à l'abri. Il reste encore du temps évidemment.
Les poteaux dans la journée, que ce soit en première mi-temps, ben, ils sont favorables,
ils sont à l'avantage de Montpellier. Exactement, en tout cas ça fait 2-0 pour les Montpelliérains face à Lorient. On va revenir te voir dans quelques secondes. Pierre-Yves, ne bouge pas, juste c'est la mi-temps en rugby, la Coupe du Monde, l'Australie qui mène face au Portugal à la pause. Julien Richard,
c'est la mi-temps effectivement, l'Australie qui mène 24-7, mais à la pause, si l'on en restait là, l'Australie rentrerait à la maison après ce match, puisque vous savez il leur faut un point de bonus offensif. Pour l'instant ce n'est pas le cas, 3 essais marqués en première période par l'Australie face à un Portugal qui nous a régalé donc en première mi-temps, mais qui est mené donc 24-7.
Merci Julien, on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Pierre, c'est vrai que l'Australie a un petit essai d'espérer pouvoir continuer dans cette Coupe du Monde, mais il y a des valeurs portugais en face aujourd'hui hein.
Ouais, absolument, ils nous montrent ce qu'on a vu contre les Géorgiens, c'est-à-dire une volonté permanente de jouer et puis de l'engagement. J'ai vu sur la dernière action, là, il y a l'un des plus puissants ailiers du monde du rugby, Koro Boïté, qui est arrivé lancé. Ils se sacrifient, ils donnent tout ce qu'ils ont, c'est remarquable à voir. Et les Australiens, bon, je sais, hein, mathématiquement, il faut absolument faire durer le suspense. Mais bon, moi je vous dis, ils sont déjà dans l'avion pour rentrer à Brisbane ou à Sydney, mais ils essayent de bien finir. On sent une équipe qui propose pas grand chose, mais qui est plus puissante que les Portugais. Mais attention, si ça redémarre comme le début de match, ils peuvent leur faire mal à la tête un peu. Donc on espère qu'on va avoir ce scénario-là. Mais pour l'instant,
avoir un peu de suspense.
Voilà, l'Australie est quand même bien dans son match et à quelques mètres d'obtenir ce point de bonus qui les ferait sortir un peu moins tête basse. Mais ils ont quand même la tête basse, hein, globalement, depuis le début du match.
Ouais, on va rappeler que s'ils obtiennent une victoire bonifiée aujourd'hui, ils resteraient en vie dans cette Coupe du Monde. Et justement, leur reste de Coupe du Monde ne dépendrait que des Fidji et du dernier match des Fidji. On retourne en Ligue 1 avec Montpellier qui mène 2-0 face à Lorient, Pierre-Yves Leroux. Et finalement, c'est les Lorientais un petit peu à l'attaque, là. Tu vois, j'allais être mauvaise langue et dire que ça se passe plus dans le camp lorientais, justement, avec les Montpellierens plus offensifs. Mais il y a quelques tentatives, quand même.
Oui, ils essayent de réagir. Évidemment, les Lorientais, avec un nouveau changement à venir dans quelques instants, l'entrée en jeu de Jean-Victor Mankengo. On va suivre ce corner dans un instant et Roland, je te pose une question. Certes, il y a beaucoup d'absents, hein. Tiemwe Bakayoko, Formos Mendy, Bonke Innocent, Bamba Dieng, Tosin qui est en soin également. Mais les Lorientais, alors on surveille le corner et je compléterai ma question derrière. Corner qui est repoussé par les Montpellierens. Les Lorientais qui vont se déplacer à Lyon et qui vont recevoir Rennes à domicile, qui sont dans la zone rouge, il y a peut-être de quoi s'inquiéter quand même.
Bah oui. Donc c'est tout à fait logique. Et puis se déplacer à Lyon, le match, il n'est pas évident du tout. Et il n'est pas amusant à jouer, ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc c'est sûr que cette équipe d'Orient, on s'attendait à ce qu'il ne termine pas dans les cinq premiers. Mais là, je pense qu'ils vont être concernés probablement par une lutte pour se maintenir.
Ce qui est 2-0, l'ADN, ouais. Hein, finalement, Flora, de ce club. Mais c'est vrai que l'année dernière, ils avaient laissé espérer beaucoup de bonnes choses en première moitié de championnat avant de vendre des joueurs très importants aussi. Il faut le rappeler. 2-0 à l'entrée dans le
des joueurs importants et de ramasser des sommes importantes.
Exact.
Allez, 18h38, l'Intégral Foot revient tout de suite sur AMC avec Coach Courbis, avec Pierre Abadon aussi. On va suivre la fin de ce Lorient en Montpellier qui mène 2-0 la seconde période d'Australie-Portugal. Et puis on va vous donner des nouvelles du 15 de France dans quelques instants. A tout de suite sur AMC.
AMC, Intégral Foot,
Flora Moussi.
18h41, on est de retour dans l'Intégral Foot avec Pierre Abadon, avec Coach Courbis, en direct du studio RMC, place de la Concorde à Paris. On suit la Ligue 1 avec Pierre-Yves Leroux du côté de Lorient face à Montpellier. On n'est pas passé loin d'un pénalty pour les Lorientais.
Alors c'est vrai qu'à vitesse réelle, on peut se dire qu'il y a peut-être une faute de Jean-Yves Chotard sur Romain Febvre, mais si on regarde bien, en fait, il y a surtout une grosse simulation. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas un carton jaune pour Febvre sur ce coup-là, qui se jette un petit peu tel le saumon dans l'Atlantique. Et il n'y aura pas pénalty dans ces cas-là. 2-0 en faveur des Montpelliérains. Et on rentre dans les 10 dernières minutes, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu tremblé sur ce coup-là. Les hommes de Michel Derzakarian, les supporters, eux, étaient pas contents, évidemment, parce qu'ils avaient...
Et oui, parce qu'ils ont aussi le souvenir du 2-0 à Strasbourg, qui s'est transformé en 2-2. Tu ne vois pas que tu reviennes à 2-1 là, 10 minutes.
Et oui.
Plus les arrêts de jeu, c'est compliqué.
Oui, et d'ailleurs, les arrêts de jeu, on sait qu'il y en aura un certain nombre. Il y a encore 10 minutes dans le temps additionnel.
Ben oui.
Et coach, Régis Lebris a déjà fait ses 5 changements. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait une blessure du côté des Morbihanais. C'est tôt quand même quand on sait qu'on a 5 changements possibles.
Ben oui, mais bon, c'est un risque qui est pris. Comme là, il s'est senti dans l'obligation de changer et l'organisation et aussi 4 voire 5 joueurs, il a pris cette option, mais pour le moment il n'est pas très inspiré.
Non, ça paye pas. Effectivement, 2-0 à l'entrée dans ces 10 dernières minutes et les Lorientais qui font tourner le ballon et surtout un bloc Montpellierin qui monte, qui vient gêner les Merlus qui ont bien du mal à ressortir.
Un changement intelligent aussi de Zakarian qui sort Savanier pour mettre le roi au milieu avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'activité, ce qui s'affilera un coup de main pour lutter contre la construction des attaques de Lorient.
Allez, il reste 10 grosses minutes dans ce match qu'on va vivre évidemment dans l'Intégral Foot sur RMC. On vous a promis des nouvelles du 15 de France. C'était long cette semaine sans match des Bleus. Prochain rendez-vous pour le 15 de France, ce sera vendredi prochain face à l'Italie à 21h pour leur dernier match de poule. Ce sera à Lyon et on va prendre des nouvelles des Bleus tout de suite avec Winnie Claret. Salut Winnie. ou pas. Alors Pierre, est-ce que tu es prêt à nous donner des nouvelles des Bleus?
Je peux t'en donner des nouvelles d'Antoine Dupont.
Qui était à l'entraînement.
Qui va mieux. Qui va mieux, qui a même fait du vélo cet après-midi.
Exactement, il était à l'entraînement ce matin.
Cela dit, en attendant que Winnie arrive, il y a d'autres bonnes nouvelles. Hein. On sait qu'il y a Marchand qui va mieux, qui devrait rentrer contre l'Italie. Aldrit vraisemblablement aussi. Il y avait une alerte aussi pour Charles Olivon au mollet. Et voilà, donc les cadres reviennent
au bon moment.
Autour d'Antoine Dupont, bien sûr, dont c'est évidemment une situation très particulière. Mais les deux capitaines, Dupont et Aldrit, pourraient être là pour l'Afrique du Sud, enfin pour le quart de finale, qui n'est pas encore l'Afrique du Sud.
Pas encore, effectivement.
Mais qui est fort probablement l'Afrique du Sud. Donc voilà, les planètes se réalignent, même si on a eu quelques difficultés. L'infirmerie se vide et c'est quand même bon signe avant les phases finales, même s'il faut évidemment respecter et prendre l'Italie avec le plus grand sérieux. Mais c'est plutôt des bonnes nouvelles. Je pense qu'on va avoir quasiment l'effectif au complet avec évidemment le sujet Antoine Dupont à traiter.
Ouais, puisqu'on parlait d'Antoine Dupont qui est de retour à l'entraînement, il ne jouera pas, on l'a dit, face à l'Italie. Du coup, on devrait voir a priori Maxime Lucu, c'est l'héritier logique
d'Antoine Dupont. Il semble, dans la hiérarchie construite par le staff et de Fabien Galthié, c'est effectivement ce qui semble prédominer. Pourquoi ? Parce que Maxime Lucu, il a ce profil d'être un meilleur gestionnaire. Il connaît bien Mathieu Jalibert. Ils ont joué ensemble à Bordeaux. Voilà, l'explosivité de Baptiste Couillou peut aussi le positionner plus comme un impact player.
Oui, donc, rentrer en jeu
Tout plaide pour l'instant pour une association de charnière Maxime Lucu, Mathieu Jalibert. Mais on va voir, il peut y avoir évidemment des surprises, mais dans un cas comme dans l'autre, ça posera à mon sens aucun problème. Il faut que maintenant l'équipe de France retrouve ses standards maximales qui n'ont pas toujours eu dans les matchs de poule. Il faut les retrouver contre l'Italie pour préparer au mieux la phase finale, parce qu'on rappelle tous que l'objectif, c'est pas de gagner le quart, c'est d'aller au bout.
Effectivement. Allez, je retente ma chance une dernière fois. Est-ce que Winnie Claret est avec nous? Est-ce que tu es là, Winnie?
Oui, cette fois, ça y est, je suis avec vous. Est-ce que Flora, est-ce que coach, est-ce que Pierre, vous m'entendez?
Oui, c'est bon, on t'entend. Et je voulais te demander, justement, on a parlé d'Antoine Dupont. Pierre a évoqué le retour aussi de Julien Marchand. Est-ce qu'il sera disponible, pour le match face à l'Italie, Julien Marchand?
Eh ben justement, c'est en tout cas ce que nous disait le staff tricolore en début de semaine, qu'il postulait pour le dernier match de poule après avoir joué seulement 11 minutes au match d'ouverture le 8 septembre dernier avant de se blesser à la cuisse gauche. Il semblerait que finalement il soit encore ménagé pour l'Italie. Selon nos informations à l'entraînement de ce matin, il n'était pas avec les titulaires. Il a même écourté sa séance pour aller aux soins alors que le collectif commençait l'opposition. Mais Julien Marchand, pour l'instant, grosse incertitude autour de son cas et de sa candidature pour le match face à l'Italie. A priori, ce sera toujours Peato Movaca qui sera titulaire et Pierre Bourgarit sur le banc au poste de talonneur.
Et pour finir, est-ce que tu as vu d'autres choses intéressantes à nous raconter à l'entraînement aujourd'hui de ce 15 de France ?
Oui, alors c'est quand même malgré tout le retour de Julien Marchand, c'est-à-dire que l'infirmerie s'est vidée, mis à part évidemment le capitaine des Bleus Antoine Dupont qui lui est toujours à l'infirmerie. Julien Marchand, certes il ne postule peut-être pas pour l'Italie comme prévu, mais en tout cas il est retourné sur le terrain pendant un temps. On avait aussi le retour de Paul Boudéan à l'entraînement, Paul Boudéan qui a subi une commotion cérébrale jeudi dernier au Vélodrome face à la Namibie, qui lui aussi est de retour. Il ne reste donc plus que le demi de mêlée toulousain à l'infirmerie aujourd'hui. Autre enseignement peut-être, c'est quand même, bon, vous en parliez, de cette charnière 100% bordelaise, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert. Il y a un autre bordelais qui semble avoir confirmé, c'est à l'aile gauche, Louis Bielbiaré, qui semble avoir chippé la place de Gabin Villiers, le Toulonnais, comme numéro 11 titulaire. Il devrait commencer lui aussi à nouveau un match de Coupe du Monde. Lui, qui, on le rappelle, est le plus jeune Français de l'histoire à avoir disputé une Coupe du Monde. C'était face à l'Uruguay comme pour le deuxième match de poule des Bleus.
Merci beaucoup Winnie Claret pour ces dernières infos auprès du 15 de France qu'on retrouvera vendredi prochain, donc à Lyon face à l'Italie. Ce sera à 21h. Merci Winnie. On reste au revu.
Salut,
ça vient de repartir entre l'Australie et le Portugal. Julien Richard.
Oui, à l'instant ça n'a pas bougé au niveau du score, 24-7, et toujours cette situation, on vous le rappelle, pour l'Australie qui mène 24-7 mais qui n'a marqué entre guillemets que 3 essais. On rappelle que l'Australie, si elle ne marque pas de points de bonus offensif, eh bien, sera officiellement et mathématiquement éliminé de cette Coupe du Monde dès les phases de poule pour la première fois de son histoire. Ça vient de repartir, donc 24-7 pour l'Australie face au Portugal.
Allez, c'est bientôt la fin de match aussi du côté de Lorient face à Montpellier. Pierre-Yves Leroux, le temps, le score.
87e minute, 2-0 pour les Montpelliérains. Début de Adam C. Savagnier. Ouais, fallait la mettre à droite, mais c'est trop tard maintenant, Roland. Il fallait le dire plus tôt. Tu donnes les consignes trop tard. 2-0, la frappe montpelliéraine qui passera finalement à côté.
Allez, les 18h49, on va vivre dans quelques instants dans l'intégrale foot cette fin de match entre Lorient et Montpellier avant de laisser la main à Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time. On revient tout de suite sur RMC.
RMC, intégrale foot.
Flora Messi.
La dernière ligne droite de l'intégrale foot. Après, ce sera Bartoli Time avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet. On vit à la fin de match entre Lorient et Montpellier. Puis beaucoup de suspense, hein, Pierre-Yves Leroux, parce que Montpellier va bien s'imposer aujourd'hui au moustoir. Hein.
Ah oui, tu l'as vu la ligne droite là pour encore Adams. Elle était parfaite avec le coup de pied magnifique et l'œil surtout de Joris Chotard en profondeur pour le troisième but des Montpelliérains qui viennent définitivement sceller le score. En tout cas, les 3 points. 3-0 pour Montpellier face à Lorient.
Une victoire, je dirais méritée, puisque bon, on peut parler là de victoire, même s'il reste.
Il y a beaucoup de temps additionnel, mais oui.
C'est une bonne minute. Donc, Montpellier en avait besoin, et mathématiquement, et aussi parce qu'il commençait un petit peu à être inquiet, la pelouse, etc. etc. Ouais. Et là, le prochain match avant la coupure internationale, c'est un match très important pour les deux équipes, Montpellier-Clermont. Et si Montpellier, sur la lancée, arrive à prendre ses 3 points contre Clermont, je pense que du côté de Montpellier, on pourra souffler un petit peu parce que c'est une saison pour le moment moyenne.
Ouais, derrière, il faudra aller à Nantes pour les Montpelliérains. Et on souligne quand même que Accor Adams, avec ce doublé, eh bien, arrive dans le trio de tête des buteurs du championnat avec 5 buts désormais.
Bonne pioche, effectivement. Il y a encore beaucoup de temps additionnel dans ce Lorient-Montpellier, 24-7 pour l'Australie en rugby face au Portugal. On va en profiter pour parler du probable futur adversaire des Bleus du 15 de France en quart de finale de cette Coupe du Monde de rugby, dont vous le rappelle, RMC est la radio officielle. L'Afrique du Sud qui défie les Tonga ce soir avec Valentin Jamin aux commentaires. Salut Valentin.
Bonsoir à tous.
Et salut, je dis Valentin. Probable adversaire des Bleus en quart, parce que dans cette poule B, bah, finalement, il peut encore tout se passer, hein.
Oui, tout est ouvert théoriquement, en tout cas avec trois équipes qui vont disputer les deux places qualificatives pour les quarts de finale. L'Irlande qui est très très bien partie, l'Afrique du Sud qui est très bien partie et l'Écosse.
C'est Australien, Valentin. Désolé, je te coupe. L'Australie peut lever son option pour les billets d'avion de retour. Quatrième essai, point de bonus offensif pour l'Australie. 29-7. Ils le tiennent, leur point de bonus offensif. Ils resteront donc mathématiquement encore en vie dans cette Coupe du Monde. Il faudra qu'ils attendent le dernier match des Fidji contre le Portugal. Dans une semaine, ils vont s'offrir une petite semaine de vacances en France.
À les Paris. Australiens.
Je prendrai quand même pas l'assurance remboursement.
Ouais, quand même.
T'es sûr qu'ils vont rentrer. T'es sûr qu'ils vont rentrer.
Allez, oui. 29 à, surtout Eddie Jones. 29 à 7 avant la transformation donc pour l'Australie face au Portugal 4e.
Juste avant de repasser la parole à Valentin, je voulais quand même dire un truc, parce que là les Portugais prennent un essai, mais à la mi-temps on a vu les stats, ils étaient devant sur toutes les stats. Possession, territoire, nombre de mètres gagnés, nombre de plaquages, et malgré tout il y avait 24-7 à la mi-temps. Donc voilà, ils dominent, ils donnent tout, mais malheureusement il leur manque le réalisme et la puissance des Australiens, qui risque de dérouler avec l'apport du banc, parce qu'ils ont quand même, à mon sens, un banc plus conséquent.
Frustrant pour les Portugais. En Ligue 1, il reste 3 minutes à jouer encore. Montpellier qui mène largement 3-0 face à Lorient. On est avec Valentin Jamin pour parler de l'Afrique du Sud qui défie les Tonga ce soir. Et je le disais, les Sud-Africains qui sont a priori les adversaires des Bleus en quart, mais rien n'est sûr encore.
Oui, donc je vous disais, hein, ça va se jouer entre trois équipes, Irlande, Afrique du Sud et Écosse. Pour résumer et pour faire simple, si les Sud-Africains s'imposent face aux Tonga avec le bonus offensif ce soir, ce serait bon à 99%. Il faudrait un scénario un petit peu fou où l'Écosse battrait l'Irlande avec le bonus lors de la dernière journée, mais l'Irlande prendrait aussi un point de bonus défensif, alors on aurait trois équipes à 15 points. Mais pour résumer, si l'Afrique du Sud gagne avec le bonus face aux Tonga qui ont perdu leurs deux premiers matchs ce soir, c'est quasiment bon pour les Sud-Africains.
Ça, c'est suspense total aussi, Pierre. Ah, oui, la transformation n'est pas assurée pour les
poteau,
Australiens.
Poteau.
Voilà,
le poteau.
Effectivement, il suit tout. Il suit tout, Pierre Abadan. Est-ce que tu vois un renversement, Pierre, possible dans ce groupe et qu'on se retrouve à affronter, je ne sais pas, l'Écosse, pourquoi pas, en quart de finale?
Franchement, si tu veux que je tease le match de ce soir, je vais te dire, ouais, c'est possible. Les
oui,
Tonga et aussi teaser le Irlande-Écosse, qui va être, lui, par contre, vraiment intéressant la semaine prochaine. Mais ce soir, je pense que l'Afrique du Sud, même s'ils vont mettre un peu de rotation, ils ont une telle marge par rapport aux Tongiens que je ne les vois pas faire une contre-performance qui les mette dans une situation délicate pour la suite. Donc on sera sur les 99,9% avant le Irlande-Écosse, à mon sens, de la semaine prochaine.
Afrique du Sud, Tonga, c'est à 21h ce soir sur AMC avec donc Valentin Jama au commentaire. Merci Valentin, à tout à l'heure.
Ce soir.
À ce soir, effectivement. On suit la fin de match en Ligue 1 entre Lorient et Montpellier. Pierre-Yves Leroux, hein, c'est fait, hein, pour cette victoire Montpellier-Rennes. Il reste une grosse minute à jouer encore.
Oui, il y avait 7 minutes de temps additionnel et les Montpelliérains qui gèrent tranquillement. Ils mènent 3-0, une victoire parfaitement construite grâce à ce premier but à la demi-heure de jeu signé Adams qui venait déjà confirmer la domination des hommes de Michel Derzakarian. Et puis il y a eu ce pénalty à la 73e pour Savanier et le doublé de Adams à la 89e. Les Lorientais évidemment qui n'y croient plus, et d'ailleurs les supporters pour bon nombre sont déjà partis ou en train de partir, alors que le soleil se couche ici sur le Morbihan et que le Merlu ne faisait pas la maille aujourd'hui. Ils étaient vraiment trop petits face à ces...
Tu les as travaillés, celle-là, non?
Bien sûr, ça fait un petit moment que j'attendais de pouvoir la placer. Mais à 3-0, je crois qu'elle peut être livrée, hein, sans problème. C'est jour de marché, c'est dimanche. On peut faire tout ce qu'on veut avec les tangos. Et en parlant des tangos, bien, dans l'Ouest, tu sais qu'il y a les Lavallois qui ont ce maillot magnifique également et qui, eux, brillent du côté de la Ligue 2.
Ben
donc
oui.
Attention aux Lorientais.
C'est vraiment l'équipe surprise de la Ligue 2.
Exactement.
C'est le Brest de la Ligue 2.
Exactement. C'est terminé au Moustoir. 3-0, quelques sifflets, vous les entendez pour des Lorientais. Décevant en ce début de championnat. Doublé de Adams, but de Savanier sur pénalty. Montpellier qui fait une très belle opération aujourd'hui dans le Morbihan.
Ben oui, là ça leur permet de souffler, de retrouver confiance et de bien préparer ce match contre Clermont qui est un match qui peut permettre à Montpellier d'être vraiment tranquille.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux. 29-7 pour l'Australie dans ce match de Coupe du Monde face au Portugal. Merci coach, merci
salut,
Pierre
salut.
D'avoir été
merci
avec Clara. Moi tout de suite c'est Bartoli Time avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet sur AMC.